Vous écoutez
RMC.
RMC.
Oui, je suis désolé, mais il ne peut pas m'exprimer là-dessous. Comme le dit un proverbe italien, ça ne parle pas chance.
Qui?
Li Kanguin. Est-ce que vous comptez le faire?
Un nouveau joueur. Louis Kanguin, je ne le connais pas. Mais Kanguin, ici.
Enrique qui a déjà un boulard surdimensionné, il est passé en montgolfière. La période Arsenal jusqu'à Nantes, on a atteint des sommets.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'afterfoot sur RMC en direct jusqu'à minuit. Ce soir au programme, on va revenir évidemment sur cette défaite. Parce que vous savez que Didier Deschamps, il y a deux choses qu'il n'aime pas. C'est perdre et que les joueurs soient trop sûrs d'eux. Donc on va parler évidemment de cette défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire à 22h30. Saïd Chaban, le boss du SCO d'Angers, sera notre invité. On va parler évidemment de tout, notamment du départ du jeu, également de l'arrivée d'Anthony Lopez dans les cages et de la future saison pour le club qui a le plus petit budget de Ligue. On va parler également de la valse des entraîneurs. Il y a du jeu, mais pas que, vous le savez, ça change un petit peu partout. Qui vous avez envie de voir dans certains clubs? Et est-ce que ça vous excite, ce changement d'entraîneur version XXL pour la saison 2026-2027? On parlera également de l'Angleterre avec Julien Laurence et puis Ryan Cherki. Est-ce que son match a été très bon, même s'il a marqué? Est-ce que sa petite sortie concernant les intentions des Bleus vous a un petit peu chagriné? On va en parler avec un homme qui connaît parfaitement bien Didier Deschamps, bien évidemment, parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble. C'est Lionel Charbonnier. Ça va, Lionel?
Salut Karine, salut à toutes et à tous.
Et Maxime Chano, qui est à nos côtés.
Salut Maxime. Salut Karine, salut Lionel, salut à tous.
J'ai hâte que tu nous dises un petit peu comment tu décryptes le Didier Deschamps après la défaite
de hier.
Hein.
Et après les déclarations
de certains joueurs. On rappelle que c'était la première fois sous Didier Deschamps qu'il y avait un match de préparation, donc avant Euro ou avant Coupe du Monde, où les Bleus s'incliner, donc à voir si ça aura des conséquences ou pas. Mesdames et messieurs, vous le savez, bientôt la Coupe du Monde, eh bien on vous offre des cadeaux absolument exceptionnels sur RMC. C'est aujourd'hui et pendant tout le week-end, vous pouvez remporter votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 stickers. Oui, c'est toutes les 30 minutes qu'il y a un gagnant qui est tiré au sort, et pour ça vous envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16, vous savez évidemment que RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde, que vous ne manquerez absolument rien de ce mondial exceptionnel à 48 équipes, avec notamment une antenne qui sera délocalisée à New York. On vivra des nuits de folie avec des débats endiablés et vous suivrez évidemment tous les matchs. Et puis on continue de vous faire des cadeaux. Dimanche, ça sera une émission exceptionnelle en direct de Dakar. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous le savez que France-Sénégal, c'est le premier match de la Coupe du Monde 2026 pour les Bleus. Ça sera de 20h à 22h horreur en France. Gilbert Briouat sera en direct donc de Dakar avec de nombreux invités. Il y aura notamment Souleymane Diawara, il y aura différents acteurs du foot local, d'anciens internationaux, et l'entrée est libre et gratuite. Donc, profitez de cette rencontre entre les membres de l'After et les amoureux du football sénégalais. Voilà, messieurs, l'After, c'est parti. On va donc commencer avec l'équipe de France. Hier, vous le savez, les Bleus ont joué leur premier match amical. Il y en aura un autre, ça sera lundi soir, évidemment, à Lille. Et puis après, ils partiront direction la Coupe du Monde. Tout avait bien commencé, 1-0, Cherki, et puis patatras. Finalement, les Bleus se sont inclinés à la Beaujoire dans une ambiance qui était absolument magnifique. On vous rappelle que c'est Doué, le frère de Désiré Guéla, qui a égalisé. Et enfin, Diallo, qui a offert la victoire aux Ivoiriens. On écoute Didier Deschamps, justement après cette défaite.
Mais les joueurs étaient impliqués, je dis pas ça. Après, la défaite est là, ça fait jamais plaisir. Cet adversaire, quand il joue contre l'équipe de France, ont pour habitude, les équipes africaines encore plus, d'avoir un maximum de motivation. Nous, on y était, on a bien géré notre première mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Je ne nous voyais pas trop beaux et je ne vais pas nous voir rouler ou être dramatique. S'il y avait besoin d'une piqûre de rappel, on l'a eu.
Alors évidemment, Didier Deschamps a fait énormément de changements, notamment à la pause. Il a fait quasiment jouer deux équipes parce qu'il y avait le droit à 10 changements lors de ce match amical. Mais il a quand même dit que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, donc premier adversaire de la France, avaient beaucoup de similitudes. Et dans tous les cas, que ça soit une équipe mixte, au mois de mars, il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé les remplaçants très bons. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que vous pensez que cette défaite, elle peut avoir des conséquences? Parce que là, Deschamps, il était parti sur un tout feu tout flamme. On avait vu beaucoup de joueurs offensifs. Une défaite, c'est jamais anodin aux yeux de Didier Deschamps, Lionel?
Non, c'est jamais anodin. D'ailleurs, il le dit, hein,
on n'aime pas perdre. Les joueurs n'aiment pas perdre non plus. Moi, je pense que de toute façon, ça l'a réconforté quelque part sur son 11 titulaire. Tout simplement parce qu'il y a eu deux équipes de France. J'ai vu la première, malgré ceux qui sont arrivés un peu plus tard n'aient pas joué. Deux équipes complètement opposées, avec une prestation en première mi-temps qui tenait la route, même s'il n'y a pas eu l'efficacité offensive. Mais par contre, la deuxième équipe, je l'ai pas trouvée du tout complémentaire. Il y avait rien. Mais là, il s'agissait pas de, en deuxième mi-temps, de trouver de la complémentarité. C'était surtout de donner du temps de jeu. Et là, ce qui est certain, c'est que oui, hier c'était un match quand même important, et ça a conforté Dédé dans ses décisions, dans sa vision pour se projeter, ne serait-ce que sur le premier match qui va être très important contre le Sénégal.
Alors Cherki, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est lui qui a marqué le but. Mais c'est vrai que on a vu des problèmes défensifs, ça c'est récurrent. On en parlera spécifiquement, notamment du côté gauche. On a vu une équipe de France qui parfois aussi n'est pas assez efficace parce qu'elle aurait pu marquer plus de buts. Maxime, ouais. On en avait parlé déjà du mois de mars. Toi, t'étais un petit peu comme moi. T'étais pas aussi emballé que ça que le Brésil et la Colombie. Par rapport à hier, c'est quoi? Il faut juste se dire c'est un match de préparation et pas en tirer des conséquences définitives.
Exactement. Je pense qu'il faut pas se dire que c'est alarmant. C'est un match de préparation. Lionel a été dans ce cas-là avant les grandes compétitions. On sait qu'il y a des joueurs qui étaient absents. On sait aussi qu'en règle générale, le début d'une préparation d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, c'est toujours très fatigant psychologiquement. Bah, déjà parce qu'évidemment, t'as la fin de la saison régulière en club. Et puis surtout physiquement, parce que tu prépares ton équipe justement à pouvoir être sportivement prête pour la grande compétition. Ça, c'est une première chose. Moi, ce que j'ai envie de faire le parallèle avec sur le sujet que tu m'as lancé, Karine, c'est vrai que j'avais senti un peu tout le monde et l'opinion publique en règle générale très presque trop sur deux sur les qualités de cette équipe de France. Individuellement, on va parvenir sur ça. Intrinsèquement, c'est une équipe qui est peut-être la meilleure de cette Coupe du Monde. On sait aussi que dans une grande compétition comme la Coupe du Monde, il y a énormément de bonnes équipes. Alors, est-ce que Deschamps l'a dit très justement, ça va justement faire une petite piqûre de rappel à tout le monde en nous montrant à tous, Français et même aux joueurs, que oui, la Coupe du Monde est une Coupe du Monde avec énormément de qualité, énormément de grandes équipes, et que malgré des talents individuels, ça ne va pas être suffisant. Voilà, donc c'est vrai que cette défaite contre la Côte d'Ivoire, ça remet un petit peu en perspective les matchs du mois de mars contre la Colombie et contre le Brésil, où est-ce qu'on avait senti que la France allait surdominer cette Coupe du Monde. Je pense que là, ça nous permet justement de nous remettre un petit peu les pieds sur terre. Didier Deschamps l'a dit très justement, la Côte d'Ivoire va ressembler au Sénégal, c'est-à-dire un bloc bas qui va attendre les Français, qui vont essayer de les contrer verticalement avec des longs ballons et qui vont essayer de profiter justement des espaces laissés par les Français. Ça, c'est une première chose. Par rapport à ce match-là, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, on m'a dit que la France avait surdominé la première mi-temps. Je sais pas ce que t'en penses, Lionel. Moi, j'ai pas vu une France exceptionnelle. On m'a parlé de... Enfin, quand je regarde un petit peu les statistiques, les XG... On n'est pas sur une quinzaine ou une vingtaine de tirs cadrés.
Il faut pas confondre dominer et avoir la possession. Ouais, avoir la possession parce que l'autre équipe te la laisse, parce qu'ils ont un plan de jeu pour te. Mais les gens ont tendance à confondre un peu les deux choses. C'est que les Ivoiriens avaient décidé de laisser la possession pour agir en contre. Les gens disent, ah ouais, on a dominé. Non, t'as eu la possession, mais tu t'es pas créé pléthore d'occasions pour les XG, t'as raison.
Et c'était voulu par les Ivoiriens. Donc il faut arriver à justement comprendre pourquoi cette équipe de France a eu le ballon, pourquoi cette équipe de France a été très haut sur le terrain. C'est parce que les Ivoiriens ont accepté ce scénario-là. Quoi qu'il en soit, je pense
par contre,
que ce soit
mieux géré en première mi-temps. Je trouvais que le déséquilibre que tu pouvais avoir en possession, parce que quand tu as la possession, tu te retrouves tout le temps dans un déséquilibre défensif, c'était beaucoup mieux géré en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps.
Je suis bien d'accord. Et c'est là que je terminais mon analyse par rapport aux enseignements qu'on peut tirer, parce qu'on peut toujours tirer des enseignements de n'importe quel match amical. C'est déjà que sans tes titulaires, sans tes joueurs stars, et là j'ai pensé évidemment à Dembélé, c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe, et tu l'as bien vu en deuxième mi-temps quand les remplaçants sont rentrés, ou est-ce que c'était beaucoup moins bien qu'en première mi-temps. C'est une première chose. Et puis tu as certaines individualités qui quand même m'ont quand même déçu. Je pense aux arrières latéraux, même si Koundé a été correct. On va dire que Théo Hernandez à gauche, pour moi, c'est un gros problème. Et on parlait justement du repositionnement de Kylian Mbappé, potentiellement le mettre à gauche pour pouvoir faire rentrer Dembélé dans l'axe. Pourquoi pas Cherki? On va y revenir un peu plus tard, en numéro 10. Mais alors, si tu te retrouves dans cette situation-là, mettre Mbappé à gauche avec, tu sais bien, les carences défensives qu'il a, plus Théo Hernandez, là, je pense que vraiment, on peut s'alarmer si on est un grand fan de l'équipe de France.
Alors, on rappelle que les Parisiens, ceux qui ont joué notamment à la finale de Ligue des Champions et qui l'ont gagné, sont entrés en seconde période. Mais évidemment, il y a, comme tu l'as dit, Dembélé, par exemple, qui lui n'a pas du tout joué. Tu as également Désiré Doué qui a été laissé au repos. Et leurs entrées, elles ont été tardives. Alors que lundi, face à l'Irlande du Nord, on devrait avoir une équipe qui ressemblera beaucoup plus à celle qui débutera face au Sénégal. Parce qu'évidemment, Deschamps, il ne veut pas une période trop longue
ne serait-ce que pour la
de non-activité. Voilà, ouais. Avant ce grand rendez-vous, le 16 juin, premier match des Bleus, évidemment, dans ce mondial. Messieurs, par rapport à ce que dit Didier Deschamps, il dit, si on avait besoin d'une piqûre de rappel, on l'a eu. Il avait parlé également en conférence de presse en disant, il faut arrêter, tout le monde nous voit déjà le 19 juillet pour lever la troisième Coupe du Monde de notre histoire, etc., etc. Est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien? Parce que là, il a dû leur taper sur les doigts quand même, non Lionel?
Non.
Juste dans l'idée de il faut pas qu'on s'enflamme.
L'idée de dire attention les gars, vous voyez, on a eu des lacunes, dans la verticalité, on a eu des lacunes lorsqu'on a un jeu de possession. Attention, parce que tout ce que je vous ai demandé, vous ne l'avez pas fait, notamment les compensations défensives quand on a la balle, et surtout pour la deuxième mi-temps. Première mi-temps, honnêtement, c'était un peu mieux. On a eu des lacunes en première mi-temps pour se créer quand même des occasions. Net, même si le meilleur joueur, quand même, faut quand même pas le retirer, le meilleur joueur en première mi-temps de la Côte d'Ivoire, ça reste le gardien. Hein. Il a fait des très bons arrêts, il a fait un très bon match. Fofana était très très bon, mais j'ai trouvé qu'on n'était pas quand même hors de position. Et cette équipe de France là aura des difficultés face au bloc bas. C'est évident.
Il a raison. Et c'est ce qu'on risque de retrouver sur les trois matchs finalement.
Tu vas aller voir les trois matchs. L'Irak, tu t'attends pas à ce qu'ils aient la possession.
C'est clair.
Ça, faut faire très attention à ça.
C'est vrai qu'avec les qualités qu'a cette équipe de France, avec énormément de vitesse, de verticalité, ça peut poser problème. Ça peut
surtout
poser problème
dans les grands espaces.
Exactement. Alors, ça peut poser problème contre des blocs.
Il y a peut-être un joueur qui peut te sauver. On en parlera tout à l'heure dans les petits espaces. C'est Cherki.
Et il nous l'a montré. Peut-être pas au premier match,
mais au moins en rentrant dans le premier match et surtout, je pense, contre l'Irak, il risque d'être titulaire contre l'Irak.
En tout cas, qui a été le meilleur hier soir, je suis d'accord avec vous, et surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je trouve qu'il y avait un peu de déchets. Bien sûr, il y a eu quand même des déchets. Pour ça, peut-être qu'on a ce questionnement de est-ce que Cherki doit jouer titulaire dès le premier match.
Ne fais pas le débat.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a des enseignements par rapport au match d'hier. Moi, je voulais te poser la question, Lionel, par rapport à ton expérience à la Coupe du Monde 98, le match précédent, le match d'ouverture, donc c'est-à-dire contre l'Afrique du Sud, Aimé Jacquet avait mis l'équipe titulaire. Tu te souviens ou pas?
Je m'en souviens même
non.
plus.
Non, parce que généralement,
c'est ce que tu fais. Oui,
est-ce que le dernier match peut justement faire changer un petit peu d'avis le sélectionneur? Par exemple, moi, je parlais de Théo Hernandez. Est-ce que Deschamps, parce que visiblement, en mettant Théo Hernandez titulaire,
il est devant Lucas Digne.
Non, il y a, enfin, en tout cas, pour l'instant, on rappelle que sur les derniers matchs, il y a une égalité parfaite. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 matchs pour Théo Hernandez, 5 matchs pour Lucas Digne. Donc là, il y a toujours, a priori, une possibilité que l'un ou l'autre soit titulaire. Il n'y a pas de place actée. On sait qu'à droite, a priori, c'est évidemment Jules Koundé. Dans la tête de Didier Deschamps, en tout cas, c'est ce qu'on lit.
Moi, je ne dis pas que Digne ne jouera pas titulaire.
Digne ou Hernandez, c'est pas gravé dans le marbre, parce qu'il n'y a aucun des deux, finalement, qui sort réellement son épingle du jeu. Ouais. Et le match de hier nous prouve encore une fois. C'est-à-dire que Lucas Digne, ce qu'il fait, c'est pas terrible. Et Théo Hernandez,
je pense que dans la tête, on verra. Hein, j'essaie de faire mon Dédé, j'essaie d'avoir son cerveau. Je pense que Digne est un temps d'avance sur Lucas Hernandez.
Oui, mais t'es d'accord avec moi qu'en le mettant Théo Hernandez titulaire, Digne est numéro 2 dans la tête de Deschamps, au même titre que...
Ben non, parce que le match important, de toute façon, c'est entre guillemets, c'est l'Irlande du Nord.
Mais là, quand tu regardes
sur les 10 derniers matchs, il y a 5-5.
Non, mais ça, j'ai bien compris.
Oui, donc ça montre qu'en fait...
Il le teste
à deux matchs de... D'accord, parce que si je regarde le 11 titulaire, excuse-moi, il n'y a que ce poste-là où est-ce qu'il teste Théo Hernandez. Parce que la défense centrale, évidemment, Konaté a joué parce que Saliba était blessé. Koundé ou Pamecano, c'est réglé. Maignan dans les buts, c'est réglé. Tchouaméni, Rabiot, c'est réglé. Finalement, enfin, je veux bien qu'il y ait encore des tests. Mais enfin, moi,
les deux, gauche, les deux,
il n'est pas encore certain.
Non, mais c'est les informations qu'on a aussi. Et même,
Moi, je te rejoins là-dessus, Karine.
Les gars, c'est pas mes informations, c'est que tout le monde le sait qu'en fait, à gauche, il y a encore une incertitude. Voilà, donc les reporters qui suivent l'équipe de France et qui échangent avec le staff le savent. Donc voilà. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Lucas Digne, qui lui, pour le coup, a fait une bonne saison avec Aston Villa, malheureusement, par exemple, Pierre, il n'a pas marqué des points. Puis, il aurait pu faire une très bonne entrée, ça n'a pas été le cas.
En deuxième mi-temps, il n'a pas beaucoup qu'on marquait des points, honnêtement.
Oui, sauf que la grande différence, c'est que Lucas Digne, il a une potentielle place de titulaire à aller chercher, alors que, comme on l'a dit, on sait très bien que Akliou ne va pas être titulaire, tu vois.
Oui.
Lors du premier match,
C'est vrai que donc, autant que Théo Hernandez a été très très moyen en première mi-temps, Lucas Digne, quand il rentre, il y a les buts qui arrivent de son côté, c'est vrai qu'il s'est fait prendre.
Mais sur les deux buts, il est quand même impliqué. Sûr,
il est coupable sur le premier but parce qu'il couvre pas Konaté et Upavé ou Lacroix, et c'est vrai que sur le deuxième but, c'est le centre en retrait, en effet, c'est les deux buts viennent entre guillemets du côté gauche. Maintenant, on verra les enseignements à tirer, c'est pareil, on parlait de N'Golo Kanté, si N'Golo Kanté rentre avant Manu Koné dans ce match-là, est-ce que toi tu peux en tirer des enseignements? Est-ce que N'Golo Kanté serait le backup de Tchouaméni Rabiot?
Oui.
Donc écoute, on va voir, mais voilà, il y a pas énormément d'enseignements justement à tirer de ce match-là. Je pense qu'il faut vraiment pas s'alarmer, mais c'est vrai qu'on a vu quelques petites choses, et notamment aussi Cherki, voilà, il revient un petit peu, il tape à la porte des titulaires. On s'est rendu compte aussi que Mbappé à gauche, ça peut être intéressant, sauf quand on a le ballon, où est-ce que moi je trouve que ça devient vraiment un problème. Marcus Thuram qui est toujours titulaire, enfin moi j'ai pas compris ce qu'il fait là. Il y a cette entente avec Mbappé, où est-ce que ça dézone beaucoup, et en effet
Mbappé, quand on n'a pas le ballon, ça va être un problème.
Ouais, mais c'est ce que Ouais, c'est quand on n'a pas le ballon. Pour moi, ça crée un déséquilibre. Alors voilà, Deschamps a décidé d'aligner ses quatre.
Non, mais t'auras pas Mbappé à gauche, hein.
Je pense pas.
L'idée,
pense
c'est pas. De commencer avec Mbappé en pointe.
Je pense bien d'accord avec moi, bien évidemment. Quand même, c'est très hybride comme système. Bon, c'était pas un grand match, mais écoute.
Le but, c'est que le grand match, il arrive dès le 16 juin. Mais de toute façon, les entrées dans les compétitions sont rarement très convaincantes, à part en 98 avec ce 3-0 magnifique, bien sûr, face à la France.
Ouais, on n'était pas fiers quand même.
Ouais, vous étiez pas serein avant de commencer.
Je peux te dire que lorsqu'on commence, on rentre au Vélodrome. Et on voit ce vent, un truc de fou. Là, on s'est dit waouh, parce que les autres, ils vont faire que défendre, ils vont envoyer des ballons. On disait à Fabien, on rigolait. En plus, on disait à Fabien, t'avances pas trop, parce qu'avec le vent, c'était un truc de fou. On s'est dit là, ça va.
Le stade était ouvert à l'époque, on rappelle.
Là, on s'est dit oh, attention.
Le stade fermé, c'est pour l'Euro 2016.
Non, mais coupe le Mistral.
Ah oui, oui. Alors qu'en 98, c'était vraiment une fleur verte. Donc il y avait énormément de Mistral effectivement ce jour-là, avec le premier but de Christophe Dugarry et évidemment la délivrance pour l'équipe de France et les supporters français. Dans quelques instants, on sera avec Farid, supporter marseillais, dis donc, qui va nous parler évidemment des Bleus. On continue d'en parler, on va parler du poste d'arrière gauche, notamment de derrière, parce que c'est vrai que Konaté, une nouvelle fois, a été en difficulté, à l'image un petit peu de sa saison avec Liverpool. On est ensemble jusqu'à minuit. L'After Foot continue, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 22h20, nous sommes en direct du studio Roland Courbis sur RMC. L'afterfoot avec Lionel Charbonnier et Maxime Chano. On revient sur la défaite de la France. Vous savez que la France est en pleine préparation avant le Mondial. Une défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire, c'était hier à la Beaujoire. Et encore mention spéciale aux supporters de la Beaujoire qui ont fait évidemment un accueil magnifique à Didier Deschamps, lui qui a été formé à Nantes et lui qui fait sa tournée d'adieu en tant que sélectionneur des Bleus, parce qu'il y aura donc le match de hier et le match de lundi, après direction les États-Unis. Donc Deschamps qui fait un petit peu ses adieux au public français en tant que sélectionneur des Bleus. Bien évidemment, lundi soir, ça sera à Lille, le match face à l'Irlande du Nord. Farid, supporter marseillais, mais aussi suiveur des Bleus, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Farid.
Salut Karine.
Salut Farid.
Farid, t'as regardé ce match, qu'est-ce que tu t'es dit? Que finalement on allait arriver en ayant bien les pieds sur terre et en ne s'enflammant surtout pas aux États-Unis? Ou tu te dis mais non, les Bleus ils étaient tranquilles, ils ont pris ce match par-dessus la jambe?
Non, je pense que sur le match d'hier, hormis le résultat, il y a des leçons à tirer. C'est un match test, le but était de... Surtout, voilà, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour le staff et les joueurs, c'est de tirer des leçons. Moi, personnellement, ce que j'ai vu hier, ça a été surtout un problème d'association par secteur qui n'a pas fonctionné en seconde mi-temps. Ouais, j'ai trouvé que l'association Cherki-Akliouche, pour moi, elle n'est pas viable. ce ne sera pas une solution pour la Coupe du Monde.
On ne risque pas beaucoup de l'avoir.
Oui, a priori, on risque pas de l'avoir.
Mais, ouais. Donc, derrière la charnière, la Croix, Konaté, une association non plus qui n'est pas prête. Enfin, attention, hein, maintenant, on a un staff de très haut niveau, ce sont des joueurs de très haut niveau. Peut-être qu'il y a des réglages à effectuer qui y arriveront, mais à l'instant T, voilà, l'association Cherki Akliouch, c'est pas possible, voilà. C'est ce qui a un peu coupé l'élan tout de suite en seconde mi-temps, c'est le fait que le jeu sans ballon, parce que quand on parle de jeu sans ballon, je vous écoute souvent en parler, vous y pensez tout le temps au point de vue défensif, mais offensif, le jeu sans ballon offensif est très important. Et quand on a un meneur de jeu, là vous allez en parler tout à l'heure, là, Cherki, qui est un joueur, comme on dit dans le jargon technique, qui aime attaquer l'homme. Il faut à côté de lui des joueurs qui aiment attaquer l'espace. Et lui, quand il attaquait l'homme, il faisait la différence. Derrière lui, il avait des gars qui venaient demander le ballon dans les pieds.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans les dossiers, hein, contre ce bloc bas. Hein.
Ouais, le bloc à plat de la Côte d'Ivoire, attention, parfois les résultats, il faut pas plus les débriefer que de dire que c'est juste le niveau des deux équipes, hein.
Mais
hier, la Côte d'Ivoire a été trop, très forte, hein, dans son bloc à plat, dans les coulissements latéraux, tout ça. Et même sur la verticalité, ils jouaient un match de très haut niveau hier. Ils étaient au-delà d'un match amical, hein, de préparation.
Farid, quand tu as vu le match de hier et qu'au final, il y avait donc cette défaite de Buzyn, est-ce que tu t'es dit, Deschamps, quand il y aura une adversité relevée, moi je pense qu'il va revenir avec un système, notamment avec trois milieux, ou est-ce que tu te dis que cette idée de continuer avec une équipe très offensive, il la portera jusqu'au bout, quel que soit l'adversaire ?
Tout dépend. S'il arrive à trouver son équilibre défensif dans ce secteur, avec ce système de jeu, ben bien, comme l'a dit Maxime, attention, on a vu une équipe B, voire C hier, hein, surtout en seconde mi-temps. Mateta, pareil, son association avec les défenseurs, avec les latéraux, sur les centres, elle était inexistante. Voilà. C'est vrai que, bon, avec le 11 ou le 13, 14 joueurs qu'on voit tous titulaires et faire une belle Coupe du Monde, s'il arrive à trouver sa sécurité défensive dans ce système, il restera dans ce système. Moi, je pense qu'il est possible de gagner avec ces joueurs, avec un quatuor offensif. Quand on voit les joueurs qu'on peut mettre sur le terrain durant cette Coupe du Monde, c'est possible, c'est ouais. possible. Attention, l'arsenal offensif est
super. Ouais, le matos, là, je suis d'accord avec toi. Après, c'est intéressant. Moi, je vais interroger Lionel par rapport à ça, qui connaît très, très bien Didier. C'est vrai qu'on a le sentiment que Deschamps, il essaie de se réinventer pour sa dernière grande compétition. Il joue avec ses quatre offensifs. Après, est-ce que t'as pas peur, toi, en tant qu'ancien entraîneur aussi, qui connaît bien la tactique de cette équipe de France, que ça crée un déséquilibre? Moi, quand je vois un petit peu le succès de l'équipe de France sur les dernières grandes compétitions, et tu le sais très bien par rapport à France 98, la grande équipe, c'était la même chose en 2018. Didier Deschamps, en règle générale, s'est appuyé sur un axe défensif qui était costaud. Il a décidé de se passer de son troisième milieu défensif pour rajouter un offensif. Moi, quand je vois hier Konaté, heureusement Upamecano a été très bon, quand je vois un peu cette défense, je les trouve très un peu friables. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que gardien de but aussi, ancien gardien de but. Comment toi, tu ressens la situation? Est-ce que tu ne penses pas qu'en effet, Deschamps devrait revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique? Parce qu'à la fin, est-ce que c'est le bon jeu ou la victoire que tu as envie de voir?
Non. Lui, alors là, il n'est pas surtout dans le bon jeu. Il est dans l'appréciation de son effectif qu'il a pris avec des attaquants. Ça va être la première faculté à ses attaquants. Autant il leur demande, il leur laisse quartier libre sur toutes les attaques. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont une liberté de choix. Alors il y a quand même ne pas se retrouver deux dans la même zone ou des choses comme ça. Bon, ça ils le savent, les gars, ils le savent. Il va juste cadrer comme ça. Mais qui va être dans cette zone et tout ça, ils seront libres. Ça, ils partent de ce principe-là. Offensivement, défensivement, maintenant ça va être la première capacité, la faculté de ces attaquants parce que ça va être hybride. On n'est pas à l'abri de voir un Dembélé revenir très près d'Mbappé, décalé de sa gauche, parce que je pense que c'est ce qu'on va avoir, un Dembélé à gauche avec Mbappé au milieu. En phase offensif, Dembélé va revenir très proche de Mbappé, ça j'en suis pratiquement persuadé. Et après, en phase défensive, ça va être la première faculté à ses attaquants de cette première perte de balle, tu vois, cette transition défensive, un, les attaquants, comment est-ce qu'ils vont répondre? Et deux, non pas les défenseurs, mais surtout les milieux, où est-ce qu'ils vont se placer par rapport à ces, je parle de Tchouaméni, de Rabiot, comment ils vont répondre par rapport aux espaces, comment ils vont les boucher?
Parce que t'as pas peur de voir un déséquilibre? Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu.
Non, je pense, tout va dépendre de la première intention défensive à la perte de balle à la première seconde.
Messieurs, on accueille Antonin et on remercie Farid d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Antonin.
Bonsoir toute l'équipe, vous allez
bien? Salut Antonin.
Nous, ça va très bien et toi?
Bah écoutez, ça va très bien et je vous trouve extrêmement pessimiste un peu sur l'équipe de France et puis sur, soi-disant, un certain déséquilibre. Moi, hier soir, j'ai regardé la première mi-temps, donc ce qui va être avec le 11, grosso modo, titulaire à la Coupe du Monde.
Oui, il faudra intégrer les Parisiens.
Voilà, c'est ça. Mais avec ces quatre-là devant, il n'y a aucun déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout le temps le ballon. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de jouer avec les quatre attaquants, alors qu'en fait, on avait une possession qui était vraiment extrêmement supérieure à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ils n'ont pas vu le jour en première mi-temps.
Mais c'était volontaire de la part de la Côte d'Ivoire de laisser le ballon à l'équipe de France. Le déséquilibre, c'est pas quand on a le ballon, c'est justement quand on le perd, quand on a 7 ou 8 joueurs en zone offensive et qu'on se retrouve avec seulement 3 ou 4 joueurs derrière pour justement contrer les contre-attaques de ces équipes qui attendent justement l'équipe de France pour les contrer avec la verticalité qu'on connaît des équipes africaines comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal.
Ouais, je suis d'accord, mais quand on a perdu le ballon en première mi-temps, on n'avait jamais été inquiété.
Ça, c'est très vrai. Rare, moi, je suis d'accord avec toi.
Très rarement été inquiété au final. Bon, alors, si on a ou pas Mécano qui nous fait au final.
Qui a éteint les incendies.
Un très beau retour, mais je trouve. Enfin, j'espère juste que Didier Deschamps ne va pas se dire après ce match-là, hey, les gars, on va finalement repasser un 4-3-3. Parce que moi, franchement, j'ai pas envie de revivre l'Euro 2024. Hein. Si c'est pour revivre une compétition comme l'Euro 2024 où on s'est fait chier à mourir. Toute la compétition
Antonin,
limite avec
qu'est-ce que c'est que ces propos? Tu t'es embêté comme un rat mort, c'est moins grossier.
Non, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de revivre l'Euro 2024. Ce n'est pas possible.
Mais t'as pas le même effectif, Antonin. Donc je pense qu'il n'aurait pas pris un effectif comme ça pour recréer ce qu'il a déjà fait. Il a jamais eu autant d'attaquants dans une sélection, Dédé.
Effectivement. Antonin, merci d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On continue de parler des Bleus à 23h, donc n'hésitez pas à nous appeler, à prendre déjà votre place dans l'After Foot. Dans quelques instants, Saïd Chaban, le boss du SCO d'Angers, est notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Karine Galli. 22h31, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. On vient de parler des Bleus, on continuera d'en parler à 23h. On est toujours aux côtés de Lionel Charbonnier et de Maxime Chano. Et on revient à notre Ligue 1, vous le savez qu'on aime tant. Et on accueille notre invité, c'est Saïd Chaban, le boss du SCO d'Angers. Bonsoir Saïd.
Bonsoir. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Saïd, on est très content de t'avoir au téléphone. On voulait faire un petit point, évidemment, concernant le SCO d'Angers, parce que le club est dans l'actualité déjà, parce que donc tu n'as plus d'entraîneur à l'heure où on se parle, parce qu'effectivement, vous avez décidé, que ça soit le club et Alexandre Dujeu, de vous séparer à l'amiable, alors qu'il était encore sous contrat. On le rappelle, il était sous contrat jusqu'en 2028. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que il y a eu un gentleman agreement, ça s'est fait entre personnes qui avaient des très bons résultats. On rappelle qu'il était au club depuis 2021 et qu'il a permis évidemment au club de se maintenir lors des deux dernières saisons et notamment à l'issue de cette saison, vous avez terminé avec une belle 13e place.
Oui, effectivement, il a été pendant 3 ans et demi entraîneur numéro 1 et 1 an et demi numéro 2 de Gérald Batic. Comment ça s'est... On a eu une discussion déjà avant le dernier match où il m'a exprimé ses interrogations, pas l'usure, mais même si la saison a été très très dure pour tout le monde dès le départ. Hein, il m'a exprimé un petit peu ses interrogations. Quand est-ce que je ne risque pas de faire la dernière une année de trop? Est-ce que ça va être aussi dur que cette année? Il me dit, je réfléchis pour soit me mettre un petit peu au vert pendant quelques temps pour reprendre un petit peu des couleurs et mieux respirer. Et j'ai senti aussi dans sa discussion son envie de d'aller sur un nouveau projet, d'un nouvel environnement, ce qui peut s'expliquer. Hein. Donc, on a toujours travaillé, ce que je lui ai dit, moi j'ai pas pu virer beaucoup de coachs, et si Stéphane Moulin dans le temps n'avait pas décidé de partir, il serait toujours là. Donc je lui ai dit, on y va, si tu te sens pas capable ou prêt à affronter une nouvelle saison, parce qu'on sera toujours dans un club qui s'appelle Angesco, on pourra pas changer d'univers, on pourra pas changer de dimension du jour au lendemain. Je comprends, il n'y a pas de souci. Tu réfléchis et puis on reparlera au moment voulu. Voilà comment ça s'est passé.
Saïd, alors Alexandre Dujeu donc a décidé de quitter le club. Il est attendu du côté de Nice a priori. Angers travaille déjà sur la suite. On sait qu'il y a une shortlist. Il y a notamment Stéphane Gilly qui vous intéresse. On sait qu'il a quitté son poste en février dernier. Il était au Paris FC. Est-ce que tu peux nous confirmer que vous discutez ensemble? Est-ce qu'il y a une shortlist? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner?
Alors Laurent Boissier en depuis qu'on a annoncé le départ d'Alex, il a eu une quarantaine de CV. C'est énorme.
Il y a beaucoup de monde qui veut du travail, qui a besoin de travailler, effectivement.
Ouais. Ils ont tous leur qualité. Et aujourd'hui, dans sa shortlist, il y en a trois CV qu'il a préparé et je devrais rencontrer les trois début de semaine prochaine.
Dont Stéphane Gilly, tu peux nous le confirmer?
Dont Stéphane Gilly, je devrais le rencontrer le mardi prochain, si tout va bien.
Bonsoir Président, Maxime Chano. Alors, tout d'abord, félicitations pour votre saison, pour tout ce que vous avez fait pour le SCO, en espérant vraiment que vous puissiez continuer sur une pente ascendante comme vous faites depuis si longtemps. Alors moi, je voulais vous poser une question. Alors c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très surprenant de laisser, alors très surprenant, attention, très honorable de votre part de laisser partir Alexandre Dujeu gratuitement. On connaît un petit peu le contexte de la Ligue 1 actuellement, où est-ce que financièrement c'est compliqué pour tous les clubs de Ligue 1. Et ma question est donc la suivante par rapport à justement aux problèmes financiers entre guillemets, et le fait aussi que vous ayez un petit budget, est-ce que vous pensez peut-être potentiellement à pouvoir promouvoir l'entraîneur assistant comme vous aviez fait justement avec Dujeu à l'époque où il avait pris le relais de Gérald Baticle, et que est-ce que ça pourrait être une option ou est-ce que vraiment vous voulez voir à l'extérieur et essayer justement de vous renouveler?
C'est régénérer un petit peu du fait qu'Alex part, donc c'est régénérer un petit peu tout le staff, hein, du moins une partie du staff, pour apporter du sang neuf, et puis c'est bon à la fois pour le sportif et surtout pour nous aussi autour. Hein.
D'accord, ça contrasterait complètement avec les deux dernières années et le projet entre guillemets Alexandre Dujeu, donc.
Oui.
On est avec Saïd Chaban, le président, le propriétaire du SCO d'Angers, invité de l'After. Lionel Charbonnier, une question pour toi.
Bonsoir Saïd. J'avais une petite question par rapport à ce profil d'entraîneur dont tu vas avoir besoin maintenant. Est-ce que tu veux un profil différent de celui de Dujeu pour t'inscrire dans une nouvelle ère, ou est-ce que tu veux quelqu'un qui puisse coller un peu plus avec ce qu'il était?
Ouais, je voudrais quelqu'un qui puisse coller avec le projet du club. Le projet du club, on l'a écrit il y a quelques années et on l'a renouvelé tous les 3-4 ans en essayant de garder la même ligne directrice. Donc il y a la compétence, il y a tous les coachs qui se sont présentés, sont compétents. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais sentir ou ressentir, c'est l'homme.
C'est une aventure humaine avant tout. Ouais.
Exact. C'est important pour moi.
Bien sûr.
Je ne suis pas un consommateur de coach. Et j'ai toujours dit, le moment où on doit se séparer d'un coach, c'est le moment où on se parle et on ne s'entend pas. Donc, je n'ai pas, pas cette ambition-là de dire, on est à Angers. Et si vous avez 3-4 défaites d'affilée ou 5 défaites d'affilée, vous changez de coach. Non, la réalité économique du club fait que pour rester en Ligue 1, c'est 9 victoires et 5 matchs nuls. Donc vous êtes prêt à perdre quasiment une vingtaine de matchs. À nous de gérer les vingtaines de matchs pour atteindre notre objectif. Après, c'est pas un manque d'ambition du tout. C'est simplement une réalité économique. Cette année, on a été 4 clubs être réellement propriétaire indépendant. Je ne parle pas des milliardaires, que ce soit Rennes ou PFC, mais on nomme clés qui sont présents dans les clubs. On est quatre, il y a Brest, Metz, Nantes et moi-même. Et la saison prochaine, on il restera que Brest et moi. Donc notre réalité, elle est là. Et notre économie, c'est le reflet de l'économie du territoire. Et on sait qu'on ne va pas se battre avec des Paris, des Marseille, des Lyon sur des budgets. Mais on essaye simplement d'optimiser ce qu'on a et de tirer profit au maximum des choses qu'on fait, qu'on réalise tous les jours.
Saïd Chaban est notre invité sur RMC, le propriétaire du SCO d'Angers. Saïd, le mercato a déjà commencé à Angers. On a dit
il y a un changement. Alors, si on parle mercato, voilà,
il y a un changement d'entraîneur, mais il y a un changement également de gardien. Donc je me tourne vers évidemment Lionel.
Je suis obligé, Saïd, parce que Kofi a été un joueur extraordinaire. Alors moi, je le mettais honnêtement, je l'aurais mis numéro un cette année. Pour moi, c'est lui qui a été le meilleur gardien du championnat.
Ouais, c'est réglé.
Bon, ça n'engage que moi apparemment, mais bon, c'est comme ça. Lui voulait rester, mais Lens a demandé beaucoup trop pour qu'il reste à la maison. Là, va falloir trouver son remplaçant. Tu perds une pièce maîtresse quand même. Hein. Et donc, oui, Anthony Lopez, oui. 35 ans.
Alors, je vais vous raconter, Lionel, je vais raconter l'histoire du début du mois d'août quand il est arrivé chez nous. On avait la possibilité de mettre une option d'achat à 500 000 euros. Qu'on pouvait déclencher. La DNCG, du fait qu'on ait été en masse salariale encadrée, on refusait cette option-là.
Vous avez trop bien travaillé.
Oui, peut-être. Peut-être. Mais donc, on n'a pas pu mettre l'option sur le prêt avec Lens. Et aujourd'hui, donc, j'ai rencontré...
Attends, excuse-moi Saïd, tu n'as pas pu parce que c'est la DNCG qui n'a pas voulu à cause de...
Oui.
C'est, sinon, les 500 000 euros, Lens les acceptait.
C'était le deal au départ.
Ah ouais.
Ah ouais. Le deal au départ. Et puis, il y a 15 jours, on a discuté avec Hervé et on s'était mis d'accord sur ces conditions, sur un certain nombre de choses. Et tout on était suspendu à la décision de Lens. Et on était prêt à mettre une somme sur Hervé. Et Lens, comme vous dites, à partir du moment où vous avez travaillé sur un gardien dont il n'avait pas sa place à Lens et qu'il est sorti, pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1, leur demande a été beaucoup, beaucoup plus importante à ce que nous, on était prêt à faire. Donc, on a fermé le dossier... lundi soir.
Donc là, c'est Anthony Lopez maintenant qui devrait le remplacer.
Ce qui devrait, donc il devrait signer si tout va bien le lundi ou le mardi prochain. Donc okay. La visite s'est bien passée, les discussions avec Laurent Boissier étaient formidables, avec l'entraîneur des gardiens Greg Maliki également. Il y avait deux profils et on a opté pour le profil
d'Anthony, qui a fait une très très bonne saison avec l'FC Nantes, hein, malgré la descente. Hein.
Oui.
Ouais, après, il est sur 35 ans.
Il aura 36 ans au mois d'octobre.
Ouais, voilà. Est-ce que
ça pose problème,
il a l'air en pleine forme.
Greg Maliki est resté chez nous jusqu'à 41, 42 ans. Pense que c'est un poste où l'âge n'est pas vraiment un handicap.
Tant que le physique est là, et la tête aussi, il n'y a pas de souci.
Il est considéré comme un gros travailleur, voilà, sérieux. Donc,
voilà, exactement. Et on a besoin de quelqu'un comme lui pour apporter cette niaque dans le vestiaire. Donc j'ai deux, trois personnes dans le vestiaire aujourd'hui et il ne sera pas de trop. Puisqu'on est une équipe avec pas mal de joueurs jeunes, donc on a besoin de les encadrer.
C'est ce que j'allais vous demander, Saïd, justement, parce que la difficulté, c'est de garder quand même, enfin pour surtout pour Boissier, je pense, de vouloir garder les cadres. Mais souvent les cadres ils veulent partir, mais il te faut quand même avoir des gars qui te qui continuent de promouvoir l'ADN du SCO ou de n'importe quelle équipe. C'est-à-dire que parfois faut mettre un petit peu plus d'argent pour garder ces cadres pour pouvoir essayer de vendre des jeunes qui seront bankable après. Donc là avoir un mec comme Anthony Lopez, c'est aussi la possibilité d'avoir un leader supplémentaire pour guider ces jeunes. Surtout, c'est très important sur le choix aussi, non ?
Surtout avec le départ de Pierre Capel, hein. L'arrêt.
Oui, oui, vous savez, que ce soit Capel ou Bomba, et bien avant eux, j'ai eu des gamins formidables dont, qui étaient avec moi pendant 6-7 ans, voire 8 ans. Moi, je leur ai toujours dit, c'est d'abord, c'est votre état d'esprit qui prime, et puis, à un moment donné, il faudra écouter votre physique. Si vous n'écoutez pas votre physique, nous, on le verra.
C'est vrai.
Mais
c'est
tant vrai. Que votre physique répond, on l'a fait. Il y avait notre capi qui est resté avec nous un bon moment. Malheureusement, Gérald n'avait pas souhaité le garder. Il y avait Romain Thomas, on avait toute une bande qui était là, qui était des joueurs club et qui sont partis au fur et à mesure. On avait le choix l'année dernière, le choix s'était posé, est-ce qu'on Bomba et Capel restent ou partent. On a préféré les garder et faire une année de transition supplémentaire parce que avec leur départ, on aurait été face qu'avec des nouveaux et des jeunes.
Ben, c'est ça.
Et on n'a pas voulu prendre le risque, mm-hmm. même s'ils avaient, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu.
Ils sont importants dans les vestiaires.
Exactement.
Et c'est vrai que vous l'avez très justement dit avec le départ à la retraite de Capel, de Bamba, de Florent Hanin aussi, 36 ans. C'est vrai que l'âge va relativement baisser. Bon, il restera Jordan Lefort, 32 ans, qui est un peu le monument aujourd'hui à Angers. Hein, il me semble qu'il a enchaîné un certain nombre de matchs sans être blessé, ce qui est juste incroyable. Donc c'est vrai, l'apport de Anthony Lopez, ça peut être précieux pour investir comme Angers.
Exact. Il y en a d'autres noms qui sont là, qui sont depuis un moment, où il y a une expérience, une expertise, qui seront, dont on annoncera les noms, qui seront là dans les semaines à venir. Mais on attend que de définir, d'arrêter le coach de manière officielle, ouais. et pour commencer à valider les profils, à valider les prolongations.
Saïd, justement, dernière question concernant le mercato, parce qu'on sait que vous êtes déjà passé devant la DNCG avec succès, mais Angers a un des plus petits budgets de Ligue 1. On parle de 25-30 millions d'euros. Il va falloir encore vendre. L'hiver dernier, au mercato hivernal, c'était Chérif qui avait dû être cédé. Cet été, on sait que Ekomi a un bon de sortie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que un départ vers l'Allemagne se précise? Et est-ce que vous pourrez garder également Prosper Peter qui a des sollicitations?
Je vois que tu es très très bien renseigné, Karine. Effectivement, au moment où on se parle, il n'y a que Jacques Ekomi qui a un bon de sortie. Il a un club en Allemagne, un club en Angleterre qui sont dessus. On devrait voir plus clair avant la fin du mois. Voilà. Après, ce que j'ai dit à Alex avant qu'il décide de partir, je lui dis aujourd'hui, moi, personne ne part, d'autres. Après, il y a une réalité, quand une offre arrive sur la table, à la fois pour le joueur et pour le club, le joueur, on ne peut pas dire non, tu restes là, alors qu'on n'est pas capable de lui offrir ce qui est là par ailleurs. Et puis pour le club, aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1, compte tenu du manque de droits télé, ont besoin de créer, de gérer, de générer des nouvelles recettes pour survivre. Et je dis au coach, aujourd'hui, si on a vendu Chérif au mois de janvier, je sais que sa valeur peut être au-dessus l'été ou un an après, mais ça m'a permis d'assurer vos salaires et de préserver le club. Aujourd'hui, moi, j'ai pas connu un club qui est mort sportivement. Tous les clubs qui sont morts financièrement. Mon rôle, autant que président du conseil de surveillance, c'est de veiller à ce que le club puisse tenir la saison financièrement et surtout, en cas d'accident industriel, qu'il puisse rebondir derrière. C'est jamais facile d'avoir un équilibre entre le sportif et le financier, mais si on veut parler de pérennité d'un club sur le long terme, à un moment donné, on ne peut pas aller sur du spéculatif, surtout quand la partie financière des droits télé telle qu'elle est là aujourd'hui est encore d'actualité.
Alors tu nous as confirmé qu'Ekomi avait un bon de sortie. Pour Prosper Peter, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a un bon de sortie ou est-ce qu'il y a un prix auquel tu le céderais?
Non, je ne sais pas s'il y a un prix sur lequel je céderais. Je vais vous citer l'exemple de notre buteur l'année dernière. Il n'avait pas de bande sortie.
Esteban Le Pol.
Je dis qu'il ne partait pas, exactement. Je ne voulais pas prononcer son nom. Mais c'est un gamin qui a tellement galéré dans sa vie. Il a eu un parcours tragique. Il s'est retrouvé en Ligue 1 à l'âge de 24-25 ans. Avant d'arriver chez nous, il était à 2400 balles. Et puis, il y a une opportunité où le salaire était à des dizaines de milliers d'euros. Pour ne pas dire centaines. Je ne pouvais pas empêcher quelqu'un de partir. Et à ce moment-là, mon rôle, c'est simplement, c'était de défendre les intérêts du club et tirer le maximum de ce que je pouvais tirer. Mais malgré ça, Esteban me dit, il était dans mon bureau, pas au club, mais dans le groupe, il me dit, Prez, si vous voulez pas que je parte, eh bien, je ferai ma saison normalement et j'essaierai d'être le meilleur.
Et au final, il a fait une magnifique saison avec Rennes. Il est même meilleur buteur de ce championnat. Donc, ça a été au final une très belle histoire. Merci beaucoup, Saïd Chaban, d'avoir été notre invité.
Merci, Saïd.
Merci, Lionel. Merci, Xavier, j'allais dire. Oh là. Bon, merci à vous trois.
Merci beaucoup Saïd Chaban, le propriétaire du Sco d'Angers, qui a été notre invité pour parler de l'actualité de son club. On le rappelle, hein, Alexandre Dujeu est parti. Il y a eu un gentleman agreement entre les deux parties, c'est le cas de le dire. Et donc Stéphane Gilly est l'entraîneur pressenti pour signer au Sco d'Angers. L'officialisation devrait avoir lieu en début de semaine. Angers qui jouera évidemment en Ligue 1 après sa belle saison où ils ont terminé à la 13e place. Dans quelques instants, on va reparler de l'équipe de France et de Ryan Cherki, le seul buteur de l'équipe de France hier. On vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Karine Galli. 22h55 sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit avec Lionel Charbonnier, avec Maxime Chano. Vous pouvez retrouver l'interview de Saïd Chaban, le propriétaire du Sco d'Angers, qui était sur RMC il y a quelques minutes, qui nous a confirmé que Stéphane Gilly était dans la shortlist. Il va le recevoir en début de semaine et ça devrait être lui, le prochain entraîneur du Sco d'Angers après le départ en toute bonne intelligence entre Dujeu et le club. Voilà, on rappelle que Dujeu, lui, devrait s'engager à Nice, mais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, évidemment, à Nice, parce qu'il y aurait potentiellement une cession du club.
Moi, messieurs, ce qui m'a marqué, tu vois, dans cette interview-là aussi, c'est quelque chose qui est complètement incohérent pour moi de la part de la DNCG, qui t'empêche de mettre une clause d'achat à 500 000, c'est rien du tout. Et donc, tu fais le travail avec un joueur, et derrière, tu te trouves pénalisé à ne pas pouvoir entre guillemets gagner de l'argent parce que et ça je trouve ça complètement incohérent.
Mais le problème c'est qu'on rappelle qu'en fait donc Angers n'avait pas le droit de recruter l'été dernier, leur masse salariale était encadrée, il y a zéro joueur qui sont arrivés au mercato estival et donc effectivement ils ont pas pu mettre cette offre 500 000 euros ce qui était
c'est peanuts
et là Lens demandait 6-7 millions d'euros et Angers n'a pas 6-7 millions d'euros.
Et finalement qui sont les grands gagnant, c'est le Racing Club de Lens. Parce que je vois mal Kofi rentrer au Racing Club de Lens en étant numéro 2 derrière Robin Risser.
Je trouve ça complètement incohérent de la part de la DNCG. Les petits clubs, comment tu veux qu'ils s'en sortent? Parce que peut-être même qu'ils auraient pu lever l'option d'achat et le revendre 6, 7, 8, 10 millions derrière.
Bien sûr, mais avec la valeur marchande, tu le revends derrière. Ou alors
et donc,
tu le gardes,
derrière, tu prives les petits clubs de pouvoir faire des culbutes comme ça en travaillant bien. Je trouve ça quelque part un petit peu stupide, il faudrait peut-être qu'ils se penchent là-dessus.
Ouais, c'est dur pour Angers parce qu'effectivement ils travaillent bien, mais là pour le coup, ben voilà, ils ne peuvent pas garder Kofi. Voilà. On rappelle qu'en plus ils ont fait du bon boulot aussi au moment.
Il n'y a pas que Kofi, ouais.
Voilà, des transferts parce qu'il y a Esteban Le Pol qui a été bien vendu et puis il y a évidemment Sheriff et Sheriff, lui, les 18 millions d'euros et ça peut monter jusqu'à 25 millions d'euros avec les bonus. Ça sera entériné au 1er juillet parce que là c'était un prépayant sur la première partie de 2026.
Dujeu, il a fait quand même une saison exceptionnelle. Alors évidemment, il y a seulement 9 victoires, mais c'est vrai qu'avec le plus petit budget, tu lui enlèves Esteban Le Pol, tu lui enlèves ton deuxième, enfin ton meilleur buteur derrière Sidiki Sherif et Abdelli, n'oubliez pas, hein, qui était le playmaker de cette équipe. Il te reste deux bouts de bois et un caillou et tu arrives à faire cette saison. Alors même si c'était un peu compliqué, c'est vrai, à la fin de saison, parce qu'en effet, j'ai enchaîné
les bouts de bois et des cailloux.
Ouais, non, sans manquer de respect, mais on s'est compris. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas intrinsèquement, c'était pas une grande, grande équipe, il faut être honnête. Hein,
c'est une
équipe. C'est une équipe avec un petit budget de Lucas, mais bon, écoute, les les joueurs sont. Esbaï a fait une super saison, Jordan Lefort a fait une super saison. Voilà, il faut quand même donner du crédit à ce groupe de joueurs et à cet entraîneur, parce qu'honnêtement, la saison qu'ils ont fait, avec le budget qu'ils avaient, bravo.
Deuxième saison où le maintien a été acquis assez facilement pour les Angevins après leur retour dans l'élite. Messieurs, justement, on va parler de cette valse des entraîneurs, parce que là, cet été, c'est quand même la folie. On rappelle qu'à Lens, changement d'entraîneur, à Lille, changement d'entraîneur, à Marseille, changement d'entraîneur, à Monaco, changement d'entraîneur, à Toulouse, changement d'entraîneur, à Lorient, changement d'entraîneur, Paris FC, ben, gros point d'interrogation, Angers, changement d'entraîneur, Le Havre, gros point d'interrogation également, parce que Digard est sous contrat jusqu'au 30 juin et on ne sait pas s'il va rester. Changement d'entraîneur. Nice, a priori, il devrait y avoir un changement d'entraîneur. À Nantes, il n'y en a plus, c'est pas compliqué. Et à Metz, il a été nommé aujourd'hui. C'est un Allemand, je vais vous retrouver son nom.
Ah non, pas du tout, c'est un Luxembourgeois.
Ah oui, mince, ah ouais, il était en 3e division allemande.
Ouais, ouais, c'est un peu ça, c'est son niveau. Ouais. Luc Holtz.
Ah, ça y est, je l'ai. J'ai trouvé Luc Holtz, 56 ans, qui entraînait Mannheim en 3e division allemande. Et il succède évidemment à Benoît Thévenot, le pauvre, qui a vu Bastia descendre en national et donc Metz en Ligue 2. Messieurs, cette valse des entraîneurs, ce jeu de chaises musicales qui se prépare, parce que c'est vrai qu'on a parlé à l'instant de Dujeu. Alors Dujeu, a priori, ça devrait être Nice, mais il est aussi quand même sur la shortlist de Lens, parce que Lens doit trouver un successeur à Pierre Sage. Est-ce que vous trouvez que ça nous annonce une saison 2026-2027 exaltante, ou vous êtes déçu qu'il y ait autant de projets qui repartent entre guillemets à zéro avec un nouvel entraîneur?
Moi, personnellement, je suis très déçu. Parce qu'on le voit, les équipes qui continuent, qui travaillent bien et qui sont dans la continuité de la Ligue 1 et tout ça, sont tout le temps des équipes, et ça, le passé nous le démontre à chaque fois. Quand tu instaures un style de jeu, tu instaures quelque chose de bien, c'est une aventure humaine. Il l'a dit, Saïd, tout à l'heure. Et ça, c'est très important. L'humain, là-dedans, il n'y a plus rien. Il y a plus d'humain, il y a plus rien, il y a plus d'ADN, tu perds tout, et en fin de compte, là, et c'est là où les dirigeants me font très très peur, c'est que t'as beau regarder à chaque fois quand ça se passe bien quelque part, c'est qu'il y a une continuité. Et qu'est-ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui? Ils virent tout le monde. Et ça me fait très peur. On prend l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Mmh. Et à chaque fois, ce sont soit les dirigeants, soit les investisseurs, soit les qui prennent ces décisions-là, qui, ça n'engage que moi, mais je le pense très très fort, font beaucoup beaucoup de mal à leur propre équipe, aux sportifs. Les dirigeants, c'est la plaie aujourd'hui, c'est la plaie.
Mais parce que t'as un aspect économique à prendre en considération. Oui, mais je suis d'accord avec toi en tant que fan de foot.
C'est pas les entraîneurs qui coûtent les plus chers. Hein,
mais justement, c'est la raison pour laquelle parfois tu te sépares d'un entraîneur, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher de te séparer d'un entraîneur qu'un staff complet, enfin en tout cas une équipe dirigeante ou de joueurs. C'est vrai que la concordance entre tous ces départs, c'est un peu surprenant quand même. Hein. Après, il y a certains départs, il faut aussi les saccader notre analyse en deux, c'est-à-dire que tu as des entraîneurs qui sont partis, en l'occurrence Pierre Sage, après une saison réussie. Donc est-ce que tu peux lui en vouloir? Finalement, il y a l'attrait de la Première Ligue, de Crystal Palace, d'un contrat qui serait presque triplé pour un entraîneur, on le rappelle, qui n'a pas été professionnel, qui n'a peut-être pas gagné énormément d'argent avant sa vie d'entraîneur. Donc est-ce que ça me paraît logique? Je pense que ce que
non,
tu vas,
pour ça, oui, il y en a certains, d'accord, oui, avec moi, notamment après, Lens, mais après
c'est là que je suis d'accord avec toi par rapport à Nice, par rapport à Auxerre, par rapport à ces départs d'entraîneurs. Mais finalement, c'est aussi lié avec la politique sportive, le fait que les saisons étaient quand même pas très bien réussies, le fait peut-être qu'ils veulent justement contraster avec des saisons qui peuvent parfois être lourdes mentalement pour essayer d'instaurer quand même une nouvelle dynamique. Je suis d'accord avec toi par rapport à Pélissier, parce que je sais que tu le connais bien. Je pense que c'est une erreur de la part d'Auxerre. Est-ce que Nice, le fait de se séparer de Claude Puel, est-ce une erreur? Je ne pense pas. Un club comme Nice, avec les infrastructures, avec le budget, avec les joueurs qu'ils ont, ils auraient dû finir bien plus haut dans le classement. Donc peut-être de rajouter un nouvel entraîneur avec une nouvelle dynamique et surtout une nouvelle vision du football, ça pourrait leur faire du bien. La vraie question, c'est un mec comme Olivier Pantaloni, un mec qui a quand même très très bien travaillé à Lorient. On sait très
il
bien.
Il est dans la shortlist de Lens.
De Lens, il s'est pas mis d'accord justement avec Lorient. Et là, je suis d'accord avec toi. Pour mais moi, c'est une grosse erreur de la part des dirigeants.
Voilà, surtout qu'il avait l'appui du vestiaire. Il avait.
Bien sûr, on a entendu à Vergel la dernière journée le capitaine qui a poussé un coup de gueule.
Mais pourquoi détruire comme ça?
Et là, je suis d'accord avec toi. C'est la multipropriété.
Il y a pas qu'à Lorient. C'est un peu partout. Mais comme ça,
quand tu vois la saison de Pantalon, ce qu'il a fait avec Lorient, et là je suis d'accord avec toi Lionel, c'est c'est la réalité du football moderne, de l'industrie du football. Là, il y a cette histoire de multipropriété. Où est-ce qu'on pense au business avant l'homme, avant le club finalement, avant l'entité?
Mais bien sûr.
Alors, est-ce qu'il va arriver à rebondir à Lens avec un Cahuzac qui a déjà signé? On le sait. Pourquoi pas? Moi, je mets quand même un point d'interrogation. Je vais pas vous mentir sur ce que peut faire Pantaloni à Lens. Mais bon, écoute, ils ont réussi à Lorient. Je leur souhaite, si jamais il devait arriver à Lens, que ça se passe de la même manière.
Messieurs, nous avons explosé le compteur, bien évidemment. Et donc, Daniel me crie dans l'oreille. Non, il me dit, Karine, il faut vraiment qu'on parte en pub. Parce qu'effectivement, nous avions le plaisir d'avoir Saïd Chaban, le propriétaire du SCO d'Angers, avec nous comme invité. Donc, on a pris un petit peu de retard. L'After Foot revient dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il y aura Thiel, la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h06, vous êtes sur RMC à l'écoute de l'afterfoot avec Maxime Chano et Lionel Charbonnier. On est ensemble jusqu'à minuit. On va reparler des Bleus. Vous le savez, Ryan Cherki a inscrit son deuxième but en équipe de France hier soir. On rappelle qu'il a 4 titularisations et 6 sélections. Ça va très vite pour l'international français. On va écouter Didier Deschamps sur la prestation du joueur de City.
Il sait faire, pour ça que c'est bien qu'il le fasse, bien évidemment. Donc tant mieux pour lui déjà, et puis pour l'équipe, puisque ça nous permettait de mener 1-0. Donc, il y en a beaucoup de qualité. Il y a eu une bonne complémentarité avec Michael Olisée. Quand tout le monde sera disponible, ça fait beaucoup de joueurs. Mais à eux, ceux qui commencent, ceux qui seront menés à rentrer, en sorte d'être décisifs.
Messieurs, Ryan Cherki donc était titulaire hier, c'est lui qui a marqué le but français. Qu'est-ce que vous avez réellement pensé de son match? Parce qu'effectivement, il a touché beaucoup de ballons, il a été très inspiré, il a marqué, mais il y a eu aussi parfois un petit peu trop de Cherki, trop de touches de balles.
Pour moi, c'est son axe de progression. Il me semble que Guardiola l'a dit aussi, son axe de progression. Alors c'est quelqu'un qui peut te retourner un match. Il est extraordinaire. Je ne vais pas revenir sur ses qualités, ouais, notamment offensives, défensives. Il peut aussi, on l'a vu faire des efforts défensifs. Il y a pas de souci. Mais par contre, l'axe de progression, c'est que il joue de la même manière, pratiquement de la même manière, lorsque il est en bloc médian, lorsqu'il dézone en bloc médian, voire pour les sorties de balles, où il va prendre les mêmes risques en bloc médian que dans les 30 mètres adverses. Ça, c'est un souci pour moi, parce que c'est un jeu à risque. On l'a vu dans ses stats. Il perd énormément de ballons, mais c'est son jeu qui est comme ça.
Et je pense que c'est un jeu à risque.
Mais bien évidemment. Alors qu'il perde les ballons à la limite des 30 mètres parce qu'il tente des choses extraordinaires, parce qu'il crée des choses, parce que oui, il faut prendre des risques et tout. Là, super. Mais dans les sorties de balles. Parce qu'il c'est quand même son métier normalement, son poste pour faire la relation entre les milieux, voire les arrières et les attaquants. Lorsqu'il se retrouve en bloc médian, voire médian bas, là il doit pas prendre de risque, il doit épurer son jeu. C'est son axe de progression. Quand il aura fait ça, honnêtement, ça va devenir un très 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 grand joueur. Il faut qu'il comprenne ça, qu'il soit très simple, intérieur de pied. Tu vois, je le compare. Alors j'ai vu qu'on le compare. Comparé aussi un petit peu à Zizou, c'est pour l'instant très prématuré. La différence qu'il y a entre l'aspect créatif et Zizou, il n'y en a pas énormément avec Ryan Cherki entre les deux. Par contre, dans les sorties de balles, le bien qu'il te fait, Zizou, il était clinique, c'était intérieur de pied, extérieur de temps en temps, mais jamais risqué, jamais risqué. Là, Ryan, c'est son problème. C'est ce qui m'a un petit peu déplu, c'est ce qui déplaît aussi, je pense, à Dédé, c'est évident.
Ouais. Et puis, il y a des comparaisons avec Zidane, on en a entendu parler quand même avec beaucoup de joueurs, et on sait qu'en règle générale, à chaque fois qu'on a comparé des joueurs aux grands ZZ,
ils sont perdus.
Ça s'est jamais très très bien terminé.
Alors, c'est sûr que la une de Marvin Martin, voilà, qui avait marqué un doublé pour sa première sélection comme ZZ, c'était pas très opportun.
On en a des très très bons joueurs, et alors là je vais rejoindre Lionel par rapport à la qualité de Cherki. C'est un joueur exceptionnel. On a une chance incroyable d'avoir un joueur comme lui en équipe de France. il arrive en bon moment entre guillemets à cette Coupe du Monde. Il faut pas oublier que la saison à Manchester City a été bonne, mais n'a pas été incroyable. Excusez-moi. Alors je sais que je vais me faire tomber dessus et je vais essayer de tempérer mes propos. On m'a posé la question si oui ou non Cherki devait être titulaire à cette Coupe du Monde. Voilà. Moi, je me suis positionné de cette manière, c'est-à-dire que je pensais que c'était un pari de lancer Cherki dès le début de cette compétition. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait pas vraiment comment il va réagir à ce genre de compétition. On sait aussi que la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est très rapide. Si tu loupes ton premier match, tu te mets dans des difficultés. T'es censé le savoir, Lionel. Je sais que tu vas confirmer que le premier match de cette compétition doit être très bien réussi. Et en l'occurrence, pour être réussi, souvent, tu mets quand même des joueurs qui ont des certitudes. Alors, certains vont me dire que Dembélé, que Désiré Doué n'ont pas des certitudes. Mais avec le PSG,
non, mais
c'est
Dembélé,
quand même
de toute façon, il a beaucoup de sélections avec les Bleus, même s'il n'a pas match référence.
Ça reste quand même des joueurs installés avec l'équipe de France. Alors, pour revenir à Cherki, c'est un super joueur. Je trouve qu'il a fait une très, très bonne première mi-temps, en effet, contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu plus de déchets sur cette deuxième mi-temps. Donc, ça me laisse
un petit peu
justement modéré par rapport à mon analyse, de le voir, oui ou non, titulaire en équipe de France. Il ne faut pas oublier, et tu l'as dit très justement aussi, Lionel, que cette Côte d'Ivoire a laissé justement le ballon à l'équipe de France, qui a permis à Cherki de pouvoir briller entre les lignes. Il a aussi brillé parce que justement, tu n'avais pas Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Avec les deux Parisiens, le jeu aurait été complètement différent et on aurait sûrement vu un Cherki un peu moins présent dans la possession de balle. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un super joueur. On va en avoir besoin. J'avais dit qu'il serait intéressant sur les 20-30 dernières minutes de chaque match, justement pour peut-être débloquer des situations où on ne sait pas, l'équipe de France peut être menée contre un bloc bas, et c'est vrai que quand tu as un Cherki entre les lignes, c'est très intéressant. De là, de le voir commencer titulaire avec cette équipe de France en ayant joué seulement 4 ou 6 matchs.
6 matchs et 4 comme titulaire.
Voilà, 4 titulaires, 2 buts. Je trouve que c'est un risque que l'équipe de France et Didier Deschamps ne peuvent pas prendre, d'autant qu'on est quand même assez fourni dans ce secteur offensif.
Alors moi, je le verrais bien titulaire, tu vois, pas le premier. Mais le
donc
deuxième match contre l'Irak,
Sénégal, Irak, Norvège.
C'est possible.
Exactement.
Donc toi, contre tu veux le Sénégal, mettre finalement titulaire face au moins fort?
Non, c'est parce que contre l'Irak, ça va être encore plus
petits espaces pour lui.
Ça va être encore plus réduit. Ça, c'est la première des choses. Je le vois rentrer, par contre, contre le Sénégal.
Mais je pense que c'est le
genre de jeu et tout ça pour apporter, parce que il t'apporte beaucoup de choses. C'est hallucinant. Il peut te créer quelque chose de neuf qui peut surprendre justement les Sénégalais. Contre l'Irak, je le vois plus et même avec s'il y a un Désiré Doué ou un Dembélé. Il y a pas de. Pour moi, c'est pas le, c'est ah, pas
tu
le
pourras
souci.
Pas tous les faire jouer, Lionel. Hein.
Non, mais je t'enlève au Lysée.
Ah, d'accord. Hein? Ok. Après.
Tu ne mets pas titulaire au Lysée?
Non, c'est pas ça. Si tu fais jouer Cherki, si, je ne peux pas Cherki. Faire jouer les deux.
D'accord.
C'est clair, il a raison.
Oui, mais pour le Sénégal, le titulaire, c'est au Lysée.
Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir le même profil?
C'est pour ça que je disais Doué, Cherki et
Dembélé.
Mbappé.
Ouais, de toute façon, tôt ou tard, tu pourras
moi
pas
je
faire
vois
jouer.
Comme ça.
Tu pourras ni faire jouer Olysée et Cherki ensemble.
Mais je pense que c'est quand même prématuré, personnellement, et dans la tête de Dédé, c'est prématuré de le mettre. Et d'autant plus qu'il va falloir préparer aussi. Normalement, si tout se passe bien, les phases les huitièmes, les huitièmes quart, demi, j'espère. Ouais. Et donc là, il va falloir que t'aies des certitudes. Et pour moi, il aura aucune certitude. Et notamment, tu risques de ne pas toujours avoir dans les huitièmes, quart et demi, si on y va, d'avoir la possession de balle. Et là, c'est un vrai gros risque parce qu'on l'a vu lorsque tu dois ressortir les ballons de derrière. Il te perd des ballons et là t'es en complet déséquilibre. Alors contre des équipes moins fortes, oui, ça peut passer parce que tes arrières sont là, machin. Mais quand tu vas tomber sur des, pourquoi pas des Kane ou enfin des ténors de devant, faut pas leur laisser la moindre
occasion. Bien sûr.
Mais alors, donc là-dessus, Dédé, non. Et puis peut-être qu'il va monter en puissance.
Bien sûr.
Bien évidemment.
Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à la qualité de ce joueur. C'est juste exceptionnel d'avoir un talent comme ça en équipe de France. Il est encore jeune, 22 ans. Il faut pas oublier que c'est aussi ses premières saisons au très très haut niveau et spécialement avec Manchester City. Moi je sais, en tout cas je suis convaincu que dans les années à venir ça va être quelqu'un qui compte pour cette équipe de France. Maintenant sur le très court terme, sur cette compétition qui s'annonce quand même assez élevée,
pas même chose
avec des blocs bas, avec des équipes qui vont être compétitives.
On l'a vu hier, ouais.
Lancer Ryan Cherki titulaire dès le premier match, je mets quand même un point d'interrogation.
Dans quelques instants on sera avec Julien qui veut parler effectivement de Ryan Cherki. Il est avec nous au 32-16 sur RMC. Un petit mot également sur l'équipe de France qui joue jouer ce soir en Pologne et les Bleus de Laurent Bonadei se sont imposés 2-0. Mallard et Baltimore sont les buteuses. On rappelle que c'est un match qui est qualificatif pour la Coupe du Monde 2027 et donc les Bleus ont pris 3 points très importants en vue des qualifications. C'était pour le compte de la 5e journée. Dans quelques instants, on continue de parler de Ryan Cherki et notamment de sa communication, parce que hier il a été extrêmement cash, extrêmement franc. Mais alors là, c'est pas du Didier Deschamps ça, hein. On en parle dans quelques instants, tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h16, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Lionel Charbonnier. On parle de Ryan Cherki, le buteur des Bleus hier, malgré la défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Et on accueille Julien, supporter lensois, mais aussi suiveur des Bleus au 32-16 sur RMC. Bonsoir Julien.
Salut Julien.
Bonsoir à tous, c'est
bonsoir Julien.
Avec le temps, vous me reconnaissez.
Julien, nous allons parler avec toi de Ryan Cherki, parce qu'il a été important hier. Évidemment, il y a beaucoup de ballons qui sont passés par lui. Il a été assez étincelant. Et puis, il y a aussi des déclats qui font évidemment parler. Je te propose, avant que tu nous dises ce que tu en penses, d'écouter Ryan Cherki au micro de TF1 hier soir.
Comme je l'ai dit et je le répète, on n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
Et voilà, donc cette déclaration lâchée par joueur de Manchester City de 22
Didier
ans.
Va être content,
et évidemment, ça n'a pas beaucoup plu à Didier Deschamps.
Ça, parce que j'ai trouvé hyper frais, moi, dans le reste et tout. J'ai trouvé génial.
Ben oui, mais tu sais très bien que Didier Deschamps, il aime bien quand même les déclarations assez polissées. Et il y a quelques jours, et ça n'avait rien à voir avec Ryan Cherki, il avait dit qu'on arrête de nous dire qu'on est déjà favori et qu'on a rendez-vous à New York le 19 juillet, parce que, évidemment, ça sera compliqué. Mais Julien, qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration qui est effectivement très naturelle, fraîche?
Ben, je trouve que c'est une déclaration au mieux maladroite, mais au pire hyper arrogante. Mais moi, j'en veux pas spécialement à Cherki. Au contraire, j'aime bien le joueur. Moi, je trouve que derrière cette citation d'un joueur, il y a plus un état d'esprit que je trouve trop relâché. Et c'est jamais bon avant une compétition. Et l'équipe de France, quand elle gagne, c'est toujours en étant dans un état d'esprit humble. Et inversement, quand une sélection fait ce genre de citation de la part d'un joueur avant un tournoi ou même pendant, c'est plutôt en général là qu'il y a le fameux karma qui peut jouer. Donc c'est pas trop à Cherki que j'en veux, mais c'est plus, j'ai l'impression qu'il y a une mentalité qui est un peu trop au relâchement. Et c'est ce que Deschamps a, semble-t-il, déjà pointé en interne.
Je suis d'accord avec toi et j'entendais un joueur de la Coupe du Monde 2002 qui avait expliqué justement un petit peu, qui avait fait la comparaison entre 98 et 2002 où il est arrivé avec beaucoup de certitude et peut-être même trop de certitude en dilettante. Mais la problématique de ces scénarios-là, en tout cas de cette histoire-là, c'est que c'était les cadres qui avaient agi de cette manière. Là, c'est Ryan Cherki, c'est un jeune joueur, il manque un peu d'expérience. J'ai bon espoir d'imaginer que Deschamps est derrière, que Mike Maignan est derrière, que Kylian Mbappé, avec son expérience, est derrière. Est-ce que c'est une erreur de communication? Je rejoins Lionel, je trouve ça très frais de sa part. Il arrive avec le sourire, ça a l'air d'être un bon gamin, il est bien intégré au groupe. Voilà, c'est vrai que connaissant aussi Deschamps, j'imagine qu'il risque de remonter les oreilles de son joueur. Ça a été le cas avec Hernandez, d'ailleurs, au mois de mars, quand il s'était positionné en disant, voilà, la France est ultra favorite. Il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. Maintenant, je suis d'accord avec notre auditeur. Attention que ça ne se retourne pas contre eux. Mais bon, voilà, c'est encore un jeune joueur.
Non, tu as raison, il va être cadré. Et Julien, moi, je te rejoins aussi. Mais je pense que là, tu vois, on a vraiment retenu, Karine, ce petit truc, écraser tout le monde. Ouais, mais c'est parti comme ça, parce qu'il est parti en Javel, il est parti, il avait fait un bon match, et puis il s'est lâché.
De toute façon, il a un côté très insouciant, très naturel.
Il a 22 ans, voilà.
C'est pas la langue de bois du Goloris, par exemple. Mais Didier Deschamps, c'est vrai que...
Il n'aime pas. Voilà. Cette phrase-là, ce mot-là, il va pas l'aimer. Mais le reste, honnêtement, open bar, moi, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très frais, très avenant, souriant, voilà. Et puis,
c'est le personnage.
Après, quand je le voyais faire ses interviews comme ça, j'avais ce que disait Pep Guardiola. Il disait, mais c'est un grand gamin. Il dit, ce gars-là, il rentre sur le terrain, il joue, il s'amuse, il est là pour jouer au foot, il est tout le temps dans l'amusement. Il est resté comme ça. S'il arrive à rester comme ça, ok. Alors après, il va falloir soigner, effectivement, il y a un ou deux mots, il va falloir qu'il fasse attention. Oui. Mais le reste, il faut pas qu'il change.
Il faut que ça soit plus polissé. Voilà.
Oui,
il verra pas avec ZZ, mais là, avec Didier Deschamps, effectivement.
Il va se former, c'est normal.
On est plus dans la langue de bois. Julien, c'est vrai que Didier Deschamps, en plus, a vraiment demandé à tout le monde, voilà, qu'il fallait surtout pas qu'il y ait une enflammade, qu'il voulait qu'il y ait évidemment beaucoup de sérieux, qu'il n'y ait pas un excès de confiance. Et donc là, cette déclaration, ben voilà, elle est plutôt dans le jardin des gens qui disent on a déjà la troisième étoile sur le maillot. Même si lui, Ryan Cherki, c'est pas ce qu'il a dit, bien évidemment.
Non, bien sûr, c'est pas ce qu'il a dit, mais après, je trouve que c'est aussi là vraiment le rôle de Deschamps de faire un recadrage à une échelle collective. Parce que, par exemple, sur le but égalisateur qu'on prend hier, c'est parce que je trouve qu'on n'est pas assez agressif sur notre phase défensive à nous. Et typiquement, un joueur comme Ryan Cherki, ce serait le joueur, ou lui, ou si c'est doué à la place, ce serait le joueur qui pourrait davantage se replier au milieu de terrain pour en phase défensive être plus présent, notamment dans le milieu, et essayer davantage d'intercepter, parce que hier, sur le but ivoirien, franchement, on se fait transpercer de A à Z, et peut-être que derrière cet état d'esprit un peu relâché, il y a ce petit problème défensif qui fait qu'on va pas être assez agressif et pas assez regroupé, alors que faudrait se replier plus vite en phase défensive et avec au moins un joueur des quatre de devant qui se replie plus vite, quoi.
C'est toujours la difficulté de trouver le juste milieu aussi entre la mentalité d'attaquer et la mentalité de défendre. C'est pas facile quand t'as des joueurs offensifs.
Cette transition, Max,
moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
Tu sais très bien, quand tu vois tes attaquants, toi, quand tu vois qu'ils perdent la balle et puis qu'à la demi-seconde, ils sont déjà debout, t'en as un qui est derrière pour empêcher la première relance, soit tu sais que derrière, ça va bien se passer.
De toute façon, Lionel, tu sais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu gagnes en 2000.
À la perte de balle, passer d'un mode de créateur, d'artiste, parce que c'est un artiste, à un mode tout de suite de guerrier, parce que tu dois être là, mettre à la limite le premier tacle pour récupérer la balle. Lui, cher qu'il le fera pas, mais faut qu'il ait ce petit repositionnement empêcher l'angle de passe.
Et c'est ce qu'on voit avec équipes de très haut niveau en Europe, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich de Vincent Kompany, où est-ce qu'ils ont justement cette tendance à une fois qu'ils perdent le ballon dans les 5 secondes qui suivent, voilà, tous les joueurs les plus proches du ballon essaient justement de récupérer en faisant un contre-pressing. Voilà, c'est la mentalité de l'équipe de France qui doit absolument être appliquée si justement ils veulent aller au bout de cette compétition, parce que on l'a dit, on gagne une compétition, évidemment, avec une ligne d'attaque performante, mais surtout avec une défense performante. Et pour avoir une défense performante, c'est pas uniquement les quatre derrière et le gardien de but, c'est le bloc équipe. Voilà, c'est à 11 que tu défends. Alors peut-être à 10, si Kylian Mbappé décide de la jouer à la Real Madrid, on va pas rentrer dans les polémiques. Mais en tout cas, il va falloir avoir un bloc équipe très fort et surtout avec une mentalité défensive que Didier Deschamps connaît très bien, puisqu'il nous l'a prouvé sur les dernières années.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On accueille Jordan également, qui est avec nous sur RMC. Bonsoir Jordan.
Ouais, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Jordan.
Jordan, on parlait de Ryan Cherki parce que c'est vrai que c'est le joueur qu'on retient évidemment par rapport au match de hier, tant sur le terrain que sur ses déclarations. Il amène un vent de fraîcheur, c'est vrai que c'est la nouveauté. Il était très souriant, il était très à l'aise, il a marqué un très joli but et c'est aussi ça évidemment le plus
dans
important.
Dans un espace très réduit.
Dans un espace très réduit. Et on entendait même certains dire ça sera le Ribéry de 2006, parce que les gens adorent les
comparaisons. Moi, j'ai entendu Zidane, moi.
Aussi, mais j'ai entendu ça, Ribéry 2006. Voilà, y a plein de comparaisons. Ouais, les gens
Ribéry
aiment ça.
Ribéry 2006, pas mal aussi. Hein.
Jordan.
Oui.
Qu'en penses-tu?
Moi, j'ai beaucoup de mal avec le joueur. Alors, j'enlève rien à son talent. Je pense que c'est un joueur qui est extraordinaire. Mais je pense aussi que c'est un joueur qui gagnerait à épurer, à simplifier son jeu. Parce que en fait, tu vois, bon, certes, il a touché beaucoup de ballons, il a touché 80 ballons en une heure de jeu, mais bon, parce qu'il demande beaucoup de ballons, parce que c'est son jeu. Mais en fait, je trouve moi qu'il ralentit énormément le jeu. C'est pas fluide. Il fait 4 touches de trop. Des fois, tu sais qu'il va la passer à un certain joueur, tu sais que c'est à lui qui va la passer, mais il va mettre 10 secondes de trop. Et bah, je sais pas, moi, j'ai quand même un peu de mal avec ce joueur. Sur un jeu qui n'est pas assez épuré, il y a trop de trop en fait.
De déchets, tu l'as dit. Et ça allait en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça a été flagrant. Après, quand tu as des joueurs autour de toi comme Dembélé et Mbappé, peut-être qu'ils ont tout à gagner aussi à lui parler et lui dire de libérer le ballon très très rapidement. Mais bon, il y a une réalité aussi. Quand tu as un artiste comme Cherki, ben aussi tu dois accepter le fait qu'il perd des ballons parce que c'est comme ça. C'est aussi la beauté du foot. Maintenant, je réitère mon analyse que j'ai fait un peu plus tôt, Lionel. C'est est-ce que Didier Deschamps va prendre le risque justement d'intégrer un joueur qui mesure de pouvoir déséquilibrer l'équipe.
Titulaire pas tout le temps, non, je pense pas. Après, il va apprendre à le connaître. Le groupe va apprendre à le connaître. Après, Jordan, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Il faut qu'il, ça va être son axe de progression, d'épurer son jeu, soit pour les sorties de balles des défenses, les sorties défensives, soit aussi pour accélérer. Et là, t'as parfaitement raison. Des fois, il fait 3-4 touches de balles dans la zone de construction. Il pourrait y aller en une touche, en un pas Seva, demander dans le dos. Il serait nettement meilleur. Bon, ça, c'est son axe de progression. Mais par contre, qu'il garde la balle, qu'il ait la balle, qu'il soit, tu vois, qu'il la garde 4-5 fois, qu'il soit dos au but, qu'il garde beaucoup de ballons, ça, c'est très important, je trouve, surtout dans les espaces réduits, parce que, et notamment s'il est dos au but, comme il demande souvent le ballon dos au but aussi le long de la ligne des 16, dans les 20 mètres, ça, c'est très important qu'il la garde, parce que ça peut créer aussi deux solutions, c'est-à-dire en gardant le ballon, déjà ça va resserrer deux défenseurs qui vont venir sur lui et qui vont créer un espace derrière. Deux défenseurs qui se resserrent sur lui, ça crée un espace sur le côté. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça va être les coups de pied arrêtés, parce que c'est un homme à faute. Hein. Et ça c'est important. Mais il faut qu'il fasse ça, mais dans les 20 derniers mètres. Le reste, je te rejoins.
Je pense que c'est aussi, ça dépend aussi de la configuration du match, de l'adversaire.
C'est ça, bien sûr.
Parce
bien
que
sûr,
bon, après, on connaît Dédé et bon, moi, je reste persuadé comme Max que ça sera du 4-3-3 avec un milieu beaucoup plus solide contre un gros adversaire. Et après, oui, Cherki, je pense que ça peut être un très bon conservateur de balles, sur des grosses équipes ou quand tu mènes 1 ou 2-0 et que tu joues ta qualif, etc. Mais après sur les compos de départ,
non.
Moi je reste persuadé que tu seras sur un 4-3-3 avec
le premier match. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'on va débuter avec cette fameuse quatuor offensive. Par contre je lance les paris et on verra évidemment en fonction du match contre le Sénégal. Je suis convaincu, mais vraiment, et on fera le bilan à la fin de cette compétition, que Deschamps va vite réintégrer son 4-3-3 et faire rentrer un troisième milieu de terrain et forcément.
Donc par exemple l'Allemagne c'est possible. On peut les affronter rapidement dans la compétition. Face à l'Allemagne, par exemple, tu te dis, même il y a 3.
Si ça fonctionne jusqu'à l'Allemagne ou jusqu'à une grande nation, je pense pas. Je pars du principe que si jamais il y avait un accrochage contre le Sénégal ou que ça se passait moins bien contre l'Irak, tu sais jamais. Aujourd'hui, l'Irak a fait 1-1 contre l'Espagne. Alors évidemment, avec une Espagne remaniée, mais ça existe dans le football. Et aujourd'hui, t'es pas à l'abri de faire un mauvais résultat ou d'une contre-performance contre l'Irak.
L'Arabie Saoudite face à l'Argentine en 2022.
Je serais pas surpris de voir Deschamps revenir à son schéma préférentiel, c'est-à-dire avec ses trois milieux de terrain. Au moins, on se poserait plus de questions de savoir qui défend, qui défend pas. Et puis, la réalité, c'est que même si on s'est ennuyé avec Deschamps pendant X et X années, mais il a fait gagner l'équipe de France. Dans ce schéma-là, c'est la dernière compétition de Deschamps. Qu'est-ce qu'il préfère? Qu'on se rappelle de lui comme du football champagne et sortir en quart de finale? Ou bien essayer d'aller au bout? Après, s'il peut avoir les deux, pourquoi pas? Mais voilà. On en reparlera. Je prends les paris.
Merci beaucoup Jordan d'avoir été avec nous sur RMC.
Salut,
belle Jordan. Coupe Jordan. Du monde à l'écoute d'RMC. On vous rappelle également que vous pouvez écouter tous les podcasts des 48 nations. Vous savez que c'est la première Coupe du monde à 48 nations et RMC vous propose des podcasts qui vous présenteront les 48 équipes qualifiées pour cette Coupe du monde 2026. Rendez-vous sur YouTube. Dans quelques instants, on continue évidemment l'after foot avec l'Angleterre, notamment l'un des favoris de la Coupe du monde. Julien Laurent est avec nous. Et puis toutes les informations du jour, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h33 en direct du studio Roland Courbis. On est ensemble jusqu'à minuit avec Lionel Charbonnier et Maxime Chano. Et ne manquez pas dimanche soir un after absolument exceptionnel en direct de Dakar. Une émission qui sera consacrée donc au football sénégalais à 9 jours du match France-Sénégal. On rappelle évidemment que c'est l'entrée dans la compétition pour l'équipe de France face au Sénégal. Ça avait été la même chose en 2002. C'est de 20h à 22h en France. En heure locale, c'est de 18h à 20h. L'émission se tiendra à l'Institut français de Dakar. Et donc, si vous voulez assister à l'émission, l'entrée est libre et gratuite. Il y aura notamment Souleymane Diawara et d'autres anciens internationaux aux côtés de Gilbert Bribois. Donc, ne manquez pas cette émission exceptionnelle dimanche soir en direct de Dakar. Et maintenant, on part en Angleterre. Nous allons retrouver Julien Laurence. Bonsoir, Julien.
Salut Karine, salut à tous.
Salut Julien.
Julien, on va parler de l'Angleterre. On le sait, l'Angleterre a évidemment des ambitions dans cette Coupe du Monde 2026. Et demain, l'Angleterre va jouer son premier match de préparation. Ça sera face à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est qualifiée pour le Mondial. Et puis après, il y aura le Costa Rica. Dis-nous tout sur cette préparation. On sait que Tourelle a été un petit peu tensé, chahuté par rapport à ses choix de groupe, par rapport au choix des joueurs qui font partie de la sélection 2026. Est-ce que la préparation se prépare bien et qu'est-ce qu'on attend côté anglais pour demain? Parce qu'on a vu déjà des surprises, l'Espagne qui a fait un but partout, la France qui a été battue par la Côte d'Ivoire.
Ouais, alors on a laissé de côté un petit peu forcément maintenant les commentaires et les débats autour de la sélection et du groupe qui l'a emmené aux États-Unis, parce qu'on attend maintenant et les matchs amicaux, dont tu l'as dit, celui de demain déjà, et ensuite celui du Costa Rica, et puis après, bien sûr, le début de la compétition. Les Anglais jouent assez tard, hein, puisqu'ils sont dans les derniers groupes aussi, dans le dernier groupe d'ailleurs de cette Coupe du Monde. Ils
17
sont arrivés
juillet, le premier match, effectivement, face à la Croatie. Ouais.
Contre la Croatie, ils sont arrivés mardi en Floride du Sud, où ils n'ont pas eu de très beau temps pendant les 4 premiers jours. C'est qu'aujourd'hui où il a fait très très beau, mais sinon il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie. Mais Tuchel dit qu'ils se sont très bien entraînés toute la semaine. Ils sont pas au complet encore, puisque Dean Henderson n'a rejoint le groupe qu'aujourd'hui, et les 4 Gunners d'Arsenal, eux, n'arrivent que demain. Donc rejoindront l'équipe que demain, avant le match. Donc je pense pas qu'ils seront impliqués dans la rencontre de demain, mais on sait déjà par exemple que Tuchel a prévenu que ce serait finalement un match d'entraînement en fait, et que chaque jour aurait 45 minutes.
Turnover.
Il va tout changer à la pause. Un peu plus que ce que Deschamps a fait par exemple hier pour nous les Français. Donc lui, il aura un 11 de départ, un 11 pour la seconde période aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, dans ce qu'il a voulu faire sur cette première semaine, c'est pas quasiment une semaine, puisque de mardi à samedi, on va dire, mais il a voulu une reconnexion par rapport au style de jeu et au principe de jeu qu'il va mettre en place pour cette Coupe du Monde. Aussi, au niveau du fitness, ils ont pas mal travaillé sur cet aspect-là. Et puis surtout, beaucoup de temps libre, il a dit, pour que les joueurs se retrouvent, se rassemblent, passent du temps ensemble. C'était très important pour lui. Donc ces derniers jours, il y a eu de l'entraînement, bien sûr, et à assez haute intensité, même dans la chaleur, même dans l'humidité. Mais aussi, pas mal de temps libre, finalement, pour que les joueurs puissent se reconnecter entre eux aussi.
Juju, j'ai l'impression qu'il le prend plus, tu vois. OK, c'est son premier poste de sélectionneur à Tourelle, mais il s'est dit que ce soit dans la composition de sa sélection et que ce soit aussi dans tout ce que tu viens de nous dire, et notamment apprendre à se connaître et tout ça, il prend pas une sélection, il veut créer une équipe. C'est le gros changement qu'il veut mettre, plutôt que de privilégier des individualités qui viennent faire une sélection. Lui veut une équipe plus qu'autre chose, non?
Ouais, c'est ça, t'as raison. Mon Lio, t'as raison, c'est ça. Depuis le début, en fait, il met beaucoup l'accent sur l'état d'esprit, la mentalité. On se rappelle, bien sûr, du débat qu'on a souvent eu autour de Bellingham, et je pense que jusqu'à très tard, il a vraiment pesé le pour et le contre sur le fait d'emmener Bellingham ou pas à la Coupe du Monde. On sait que Trent Alexander-Arnold n'est pas là, probablement plus pour des raisons collectives, tu vois, que son talent individuel, qu'il y a le ballon. Tu vois, il y a rien à en dire, vraiment. Mais oui, il y a ça, et d'ailleurs, à l'écouter encore aujourd'hui, sincèrement, c'était fascinant. Alors moi, j'aime beaucoup, on l'a beaucoup fréquenté quand on avait les droits sur RMC de la Première Ligue, par exemple, qu'il était à Chelsea, donc je suis peut-être un petit peu partisan dans un sens, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit en conférence de presse, à la radio, à la télé, sur ce besoin, effectivement, de se reconnecter ensemble, mais aussi de reconnecter par rapport au plan de jeu... Sincèrement, c'était vraiment fascinant à écouter. Alors, c'est quand même très intelligent, mais je pense qu'effectivement, comparé à d'autres, alors Southgate, lui, avait trouvé cette reconnexion-là, mais c'était un petit peu différente. Il avait pacifié tout l'environnement autour de la sélection. Il avait fait des choses qui étaient vraiment très bien. Même vous savez à quel point j'étais pas trop fan de Southgate au niveau tactique et technique, mais sur le reste, il avait vraiment fait du très bon travail. Pour moi, Tuchel, c'est encore le niveau au-dessus. Et alors demain, je ne sais pas ce qu'on pourra en tirer vraiment, parce qu'avec deux équipes sur 45 minutes, c'est compliqué contre une équipe qui va beaucoup défendre déjà. Mais ensuite, pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve que qu'on soit d'accord ou pas, on avait parlé beaucoup avec Maxime, d'ailleurs, on était le soir ensemble aussi.
On a perdu Julien Laurence, on va le retrouver dans quelques instants. Évidemment, il nous parlait des choix de Tourelle et du fait, c'est vrai qu'en fait, il a vraiment envie... Ah, Julien, on t'a retrouvé.
Pardon, oui.
Non, aucun problème.
Juste pour finir, je disais... que les choix qu'il avait faits, on en avait parlé le soir de la liste, on était ensemble avec toi Karine et avec Maxime aussi, sur c'est, au moins il y a un sens, si tu veux, et une justification de sa part à lui, et une logique finalement pourquoi il a pris effectivement les 26 joueurs plus le réserviste, mais qui sont pas forcément les mêmes les 26 meilleurs joueurs du pays, comme Deschamps le répète souvent aussi, mais les 26 qui feront sûrement la meilleure équipe, encore une fois, pour rejoindre le point de Lionel.
Ouais, j'appuie votre analyse par rapport aux joueurs qu'il a laissés sur le côté. Hein. On a parlé d'Alexander Arnold, mais il y a Foden, hein, le joueur de Manchester City, Cole Palmer surtout. Moi, c'est vrai que malgré la saison un petit peu compliquée de l'anglais, je l'aurais quand même choisi. Moi, j'ai envie de te poser une question, Julien. Cole Palmer pas sélectionné, si jamais Tuchel n'avait pas sélectionné Bellingham, est-ce que ça aurait vraiment fait scandale en Angleterre, d'autant plus qu'on connaît un petit peu les tabloïds, et c'est ce qui a aussi porté préjudice à cette équipe d'Angleterre, c'est un peu la pression médiatique depuis toutes ces années. Toi, comment tu vois la situation par rapport à Bellingham, qui est décrié en tout cas en équipe nationale, on sait qu'il a mis sur le banc quelques matchs récemment. Voilà. Est-ce que Bellingham garde quand même les faveurs de Tuchel et surtout de l'opinion publique, parce que les Anglais ont quand même besoin de se retrouver derrière leur star, derrière une star, c'est un peu le cas en équipe de France avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Là, c'est vrai qu'avec l'absence de Cole Palmer, de Foden, des joueurs, alors évidemment il reste d'autres joueurs derrière, mais des joueurs quand même majeurs. Est-ce que Bellingham garde quand même cet aspect de leader technique de cette équipe nationale d'Angleterre?
Sincèrement, c'est une super question, et sincèrement, personne ne sait en fait. Et on aura peut-être un élément de réponse demain, parce que si l'attaque de l'Angleterre demain, c'est Kane et Rodgers en 10 par exemple, ben on saura que c'est sûrement cette attaque-là qui va débuter la Coupe du Monde contre la Croatie. Si Bellingham est titulaire dans la première équipe, parce que je pense encore une fois que les 11 des 45 premières minutes seront les... ce qui se rapprochera sûrement du 11 titulaire sans les joueurs d'Arsenal, quoi, donc sans Rice et sans Saka surtout. Mais après, tu vois, pour le reste, on ne sait pas en fait ce qu'attend Bellingham, on ne sait pas dans quel état d'esprit il est lui.
C'est
déjà.
Ça. Quelle est aussi la réputation de Bellingham dans le groupe? Parce que quand tu es joueur du Real Madrid, que tu es presque la star, on ne va pas se mentir, évidemment, il y a d'autres joueurs, Harry Kane et compagnie, Saka, mais quelle est la mentalité un petit peu de ce joueur? On a fait le parallèle avec Deschamps, il veut une équipe, Tuchel a l'air d'être sur la même longueur d'onde, il veut créer un groupe. Est-ce que tu penses que c'est le genre de joueur qui pourrait foutre un petit peu, on s'est compris, dans cette sélection?
Bah oui, si on retourne 2 ans en arrière à l'Euro 2024, on sait qu'il y a eu des tensions, on sait qu'il y a eu des soucis avec Southgate, avec certains autres joueurs dans le vestiaire, et qu'à un moment, c'est ce qui a aussi poussé Tuchel à avoir cette réflexion sur est-ce que je l'emmène, est-ce que je l'emmène pas, est-ce que c'est un risque si je l'emmène. Tout à fait. Et après, on sait toujours pas même la réponse, pas simplement Jude lui-même, mais les gens autour de lui, dans son entourage, etc., etc. Il y a quand même eu des moments très compliqués depuis qu'il est avec l'Angleterre. Le talent est pas du tout, tu vois, il y a pas de débat autour du talent.
On le sait, ouais.
Voilà. Mais après, c'est vrai que sur sa personnalité et son statut, en tout cas le statut que lui aimerait avoir ou qui souhaiterait lui être donné et celui qu'il a, il y a peut-être une différence effectivement qui à un moment pourrait causer problème, mais pour l'instant, en tout cas côté anglais, on entend que ça se passe plutôt bien pour tout le monde, mais encore une fois, on en est qu'au début, ils sont arrivés il y a 5 jours.
Mais là, Juju, avec Tuchel, quand même, le contexte semble complètement différent. C'est peut-être aussi pour ça que tu sais très bien comment ça se passe. Tu prends le même joueur, tu le mets dans un contexte différent, il va émerger ou alors il va complètement sombrer selon le contexte. Et là, avec Tuchel, qui met l'accent sur l'équipe et qui doit pas arrêter, à mon avis, il doit leur rabâcher qu'il y a personne au-dessus de l'institution, et même Bellingham, le gars peut rentrer dans le rang et ça peut bonifier, je pense, cette équipe. Et c'est peut-être justement l'année où ça peut très très bien se passer pour l'Angleterre.
Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ça va très bien tourner avec Tuchel. Mais
ça me fait peur pour la France. Ouais.
Ouais, mais après,
c'est la première fois que les Anglais me font peur.
Ouais, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors après, il y a quelques limitations sur certains postes, qui est tout à fait normal aussi, tu vois. Et puis il y a peut-être une dynamique malgré des éliminatoires qui ont été excellentes. On l'avait dit la dernière fois déjà, mais les 3 matchs, donc sur les éliminatoires, ils font un sans faute. Sur les 3 matchs qu'ils jouent contre des mondialistes, en revanche, il y a 0 victoire. L'Uruguay, le Japon, et le dernier que Uruguay, Japon et Sénégal. Donc bon, après ça c'est pour un autre débat, on en parlera plus près de leur début de la compétition. Mais pour revenir sur Bellingham, Tuchel c'est le patron. Et Tuchel, il en a rien à faire du nom, de la réputation, du palmarès, du CV, tout ce qu'on, et ça on le savait déjà avant. Il l'avait déjà dit très souvent. il fera ses choix et ses choix seront dictés par peut-être une autre motivation que juste prendre les plus grands noms et les meilleurs parce que on veut pas s'attirer des problèmes ou on veut pas avoir les médias à dos, etc. etc. Lui, on a rien à faire. Mais sincèrement, il est là pour la Coupe du Monde. S'il la gagne, il deviendra une légende et tout ce qu'on veut. S'il la gagne pas, il va se faire défoncer. Mais ça, il le sait très bien de toute façon.
Il fera comme
moi, il l'a accepté.
Toi, tu les vois gagner? Ah, c'est
je moi, je les vois aller très loin. Plat,
moi, ils me font peur, hein.
Ouais.
Moi, ils me font peur. Avec Tourelle, ils me font très peur.
Ouais. Tu les sens plus armés, par exemple, sur les dernières compétitions? Comme ça, d'un point de vue...
Je les sens, Max, je les sens plus en confiance, en fait. J'ai l'impression que Tourelle a donné, mais après, Tourelle est comme ça. Hein. Tourelle, il transmet cette confiance-là. Il a encore parlé aujourd'hui aussi, il dit, parce qu'à un moment, on lui a posé la question sur la frustration. C'était un peu frustrant d'avoir toute la pluie, par exemple, les premiers jours. Le terrain, demain, ils vont à Tampa pour le match contre la Nouvelle-Zélande. Le terrain n'est pas en très bon état. Il dit, et on lui a posé la question, est-ce que vous êtes frustré par tout ça? Il dit, mais de toute façon, la frustration, elle peut pas apparaître pendant cette Coupe du Monde. C'est pas possible. Il faut qu'on reste calme. Il faut qu'on reste concentré. Et ça, il le transmet très, très bien. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus prêts à ce niveau-là. Ils savent aussi qu'ils ont un entraîneur, contrairement à Southgate, qui tout le monde savait qu'il avait un peu des limites tactiques. Et après, c'est pas que sur lui, mais avec Tourelle, ils savent très bien que à ce niveau-là, au niveau coaching, au niveau tactique, au niveau game management, tout ce qu'on veut, c'est le top du top. Et ça, les joueurs se sont très bien rendus compte très rapidement.
Ils le sentent.
Et donc, je pense qu'ils transmettent vraiment cette confiance. Et qu'après, malgré certaines limites et certains manquements dans certains postes, je pense qu'ils vont être, embêtants à jouer. Et ça peut être très très solide et ça peut aller aussi très vite vers l'avant et ça peut faire mal.
Julien, la valise est prête. C'est le départ dimanche, c'est ça?
Dimanche, ouais, quasiment. Je finis un peu, tu vois, quelque chose de foot au cas où je joue un petit peu, vois, les baskets.
N'oublie pas la crème solaire, hein.
Ouais, la crème solaire, tu as tout à fait raison. Ouais, quelques shorts aussi.
Ah oui, c'est vrai que la crème solaire, j'y avais pas pensé.
Bah, vaut mieux, ouais, avec le soleil, ouais.
Oui, oui, non, mais excuse-moi, je me suis pas dit qu'on partait aux Bahamas, et c'est vrai que j'y ai pas pensé.
Attention, les États-Unis, au mois de juin et juillet, messieurs.
La crème solaire.
Fait très, très chaud.
Mais on bronze bien chez le Laurence, donc ça va.
Merci beaucoup, Julien, et on rappelle également qu'on peut te retrouver justement dans ce fameux podcast Angleterre. Tu étais aux côtés de Andy Brassel, un ancien journaliste, notamment du Guardian, pour parler des chances de l'Angleterre. Merci beaucoup. Demain, donc, on rappelle que l'Angleterre et sera opposé à la Nouvelle-Zélande dans quelques instants. Un point sur toutes les informations du jour, les délires de Florentino Pérez, quel mercato pour le PSG, Bodmer à Caen, ou encore évidemment Lamine Yamal qui a été sacré meilleur joueur de Liga. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h48, vous êtes sur RMC avec Lionel Charbonnier, Maxime Chanot. Messieurs, les informations du jour, il y a pas mal de choses bien évidemment. Nous allons parler notamment de Lamine Yamal qui vient de recevoir le titre de meilleur joueur de Liga. C'est la première fois pour le jeune international espagnol. Il succède à Rafinha. Logique ?
Logique. Logique, logique, même si évidemment il y a cette blessure, moi je trouve que c'est logique. Il représente la Liga, évidemment. Bon, on va pas parler de l'aspect collectif du FC Barcelone, hein, qui a, on le rappelle, gagné le championnat. Après, évidemment, il y a l'aspect extra-sportif, mais bon, ça rentre pas en compte. Moi, qui me gêne un petit peu sur ce joueur, qui j'ai un peu peur qu'il se perde un peu. On verra, c'est encore très tôt pour en parler. Mais on en a vu hein, des grands talents. On en a vu des grands talents réussir dans le ballon et puis qui sont un petit peu perdus sur l'extra-sportif. Je pense notamment à Neymar. Bon, on en est
pas
là.
Et c'est son idole.
On en est pas là. Mais c'est vrai, comme quoi, tu te rends compte que l'entourage d'un footballeur professionnel est très très important et super précieux. Maintenant, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Et il faut être honnête que c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui, enfin, en tout cas moi qui est un grand fan de foot, c'est pour ce genre de joueur que je paye mon ticket au stade ou en tout cas que je les commente sur RMC. Donc ouais très très heureux pour lui et puis en espérant maintenant qu'il redresse la barre et qu'il puisse avoir une carrière non pas à la Neymar mais pourquoi pas à la Messi.
Lionel, un petit mot sur le mercato parisien, ce sont des informations RMC Fabrice Hawkins, parce que évidemment le PSG est double champion d'Europe mais il travaille quand même sur le mercato, alors a priori pas de grands bouleversements, on s'y attendait, mais il pourrait y avoir les départs de Kang In-Lee, de Gonzalo Ramos. On nous parle également de profils qui pourraient intéresser le PSG, notamment des profils défensifs. Alors Marquinhos veut rester, mais on chercherait quand même un défenseur. Et notamment, il y a une interrogation pour le côté gauche, donc que ce soit défenseur gauche ou même arrière gauche. Est-ce que pour toi, c'est vraiment là que le PSG doit recruter, si recrutement il y a? Parce qu'on rappelle que l'an dernier, il y a eu deux recrutements, ça n'a pas marché, que ce soit Zabarni ou Lucas Chevalier.
Ouais, exactement. exactement. Donc il va falloir faire attention parce que c'est quand même deux gros investissements. Ils peuvent pas se tromper tout le temps. Alors Zabarni, peut-être qu'il va monter comme ça en progression et qu'il a besoin de connaître le club, de s'acclimater et tout ça. Maintenant, moi je pense que de toute façon dans le recrutement, ayant entendu analyser tout ce qu'a dit Enrique, il va y avoir pour moi du recrutement, mais dans la polyvalence, c'est-à-dire qu'ils vont recruter, ils sont capables de recruter un latéral gauche, mais capables de jouer axe gauche aussi. Oui. Je pense que ça, j'en suis Mendes, pratiquement persuadé. Ouais. La même chose qu'il a, par exemple, sur le côté où il a Zaïre Emery avec Hakimi. Là, ça va être la même chose avec Beraldo et puis
Vitinha dans l'axe.
Qui prend cette place-là, qui monte d'un cran. Donc la polyvalence, ça, j'en suis persuadé. Ça sera pas un spécialiste du poste, mais ça sera un joueur qui sera très bon aux deux postes. Ça, j'en suis persuadé.
Je suis d'accord.
Après, il faut le seul bémol, savoir ce que va faire Ramos, est-ce qu'il va vraiment partir ou pas, parce que là
en tout cas il souhaite pas les prolonger a priori, que ça soit Lee ou Ramos, donc plutôt des départs.
Donc s'il y a un départ, s'il serait capable de mettre, alors là je pense pas qu'il y ait de la polyvalence, parce qu'il y a déjà de la polyvalence avec Dembélé.
Je pense à un vrai numéro 9
où il y a pas de polyvalence pour deux postes. Pour moi c'est gardien de but et numéro 9, le buteur, je parle du buteur.
S'ils partent, ils seront remplacés, donc ça c'est aussi important. Et au niveau des prolongations en discussion, il y a celle de Bradley Barcola et celle d'Ousmane Dembélé également.
Barcola, très important. Je pense que s'ils peuvent le garder, s'il a envie de rester, s'il accepte cette situation-là, je pense que c'est surtout important, parce que tu ne trouves pas mieux actuellement.
Surtout que tu as un turnover entre Barcola, Désiré Doué sur les côtés.
Voilà, après, c'est lui qui va décider. Et ils ont raison. De toute façon, ils ont mis l'accent là-dessus. Un joueur qui ne veut pas rester à Paris, on n'en retient pas. Ou un joueur qui ne veut pas venir,
un gros potentiel, je trouve qu'il fit bien avec le Paris Saint-Germain.
Moi, je pense que s'il reste, ça serait déjà une belle recrue.
En tout cas, je suis entièrement d'accord avec Lionel par rapport au chantier. Moi, j'avais parlé du gardien de but, que je pensais éventuellement peut-être trouver un gardien avec une classe internationale, même si Safonov a fait le boulot. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher en Europe? Je ne sais pas. Et puis moi, je pensais aussi à un backup à Marquinhos. On l'a vu en difficulté quand même sur certains matchs, et notamment cette demi-finale aller contre le Bayern Munich, avec un PSG qui joue quand même très haut, qui aime chercher les adversaires, avoir un défenseur un peu à la Pacho qui est en mesure de pouvoir couvrir son dos.
Je pense qu'ils vont lui demander à Marquinhos ce qu'il veut faire. Et c'est lui,
ça discute en tout cas. Voilà, lui, il aimerait rester. Voilà, il pourrait y avoir un renfort. Mayolou est à un an de la fin de son contrat. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé, mais des négociations se poursuivent. Messieurs, le délire de Florentino Pérez. Vous savez qu'il y a évidemment les nouvelles élections qui se rapprochent. Ça sera dimanche. Il espère être bien évidemment réélu. Et donc, il nous annonce à chaque fois des grands joueurs. Il y a Konaté qui devrait signer. Il y a également Dumfries. Et là, il nous parle d'un joueur à 150 millions d'euros. Ça serait la plus grosse recrue de l'histoire du Real Madrid. Et il serait donc question de Michael Olise. Mais en fait, moi, je ne comprends pas du tout le délire. C'est-à-dire que 150 millions d'euros, aujourd'hui, ce n'est pas dingue. C'est-à-dire que Neymar a coûté beaucoup plus cher. Ousmane Dembélé a coûté très cher à l'époque. Coutinho aussi. Enfin, 150 millions d'euros, on dirait qu'il nous annonce 500 millions.
C'est basé sur quoi les 150? Parce que je ne suis pas convaincu.
Mais surtout, le Bayern Munich ne lâcherait jamais à ce tarif-là.
Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une clause libératoire dans son contrat? Ça, je ne sais pas. Mais 150 millions, ça me paraît.
Moi, je comprends pas le délire, c'est qu'ils font des élections. Pour moi, c'est un cirque. Ils sont en train de se faire des élections. Moi, je te ramène à Londres, toi, et l'autre, il va ramener. Élisez-moi parce que vous allez avoir de... Mais le problème, il n'est pas là au Real. Le problème, il n'est pas sur un joueur, il n'est pas sur un recrutement.
Oui, le Bayern n'est pas vendeur non plus. Donc c'est quand même
Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais il avait fait ça avec Figo, je crois, à un moment donné.
Oui, c'est ça, exactement.
Quand il avait fait, il me semble.
Oui, c'est ça. Bah, il avait fait ça aussi. Documentaire, hein. Il avait expliqué comment il l'avait récupéré.
Voilà, exactement.
En effet, non.
Mais pour moi, c'est
de la politique.
C'est hallucinant. Et en plus, par contre, si c'est Florentino Pérez qui reste, pour moi, le chantier, il va falloir qu'il sache s'entourer. Parce que là, moi, je le trouve complètement dépassé actuellement. Donc, qu'il ait un peu des personnes. L'autre fois, je l'ai vu faire une interview. J'ai dit, mais il est à l'Ouest.
Terrible. Lorsqu'il a voulu régler ses comptes et lorsqu'il a été notamment misogyne avec des femmes.
Donc, il faut qu'il s'entoure. Parce que là, t'as l'impression qu'il ne résonne plus.
C'était pathétique. Messieurs, juste un petit conseil. À Olise, vous lui dites quoi? Reste au Bayern, t'es super bien là-bas. Ou le Real, ça se rate pas?
Moi, je reste au Bayern.
Tout dépend s'il a envie de voir du soleil. S'il a envie d'avoir du soleil, je lui dis va en Espagne.
Non, moi, je reste au Bayern.
Plus sérieusement, non, par rapport à la manière dont le Bayern a joué cette année,
Bayern, ce qu'ils ont fait.
Ce qu'est en train de faire Vincent Kompany, je pense que si ça continue sur cette lancée, le Bayern peut dominer l'Europe au même titre que le PSG est en train de le faire. Donc,
on s'y attendait, mais un accord de principe a été trouvé pour Mathieu Bodmer à Caen. Alors, on rappelle qu'il avait décidé de partir du Havre à l'issue de la dernière journée de championnat, mais il va rester en Normandie. Donc, c'est des informations de BFM Normandie que RMC peut confirmer. Il devrait arriver avec deux adjoints, Mohamed Elkaraz et Julien Maumont, qui étaient déjà avec lui au Havre. On rappelle que Caen a terminé 8e de National, donc là, il serait dans la famille Mbappé. Vous trouvez que c'est un challenge exceptionnel, que c'est terriblement dommage de le voir en National alors qu'il a des compétences qui pourraient évidemment intéresser un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça très surprenant de sa part, parce que c'est un directeur sportif avec énormément de qualité et qui rendrait service à beaucoup de clubs de Ligue 1. Maintenant, je trouve l'idée intéressante de la part du clan Mbappé, tout comme lui, la part du clan Bonnemer, c'est-à-dire c'est peut-être même une situation win-win. Il va arriver dans un club qui a énormément de besoins et en tout cas de besoins de qualité.
Il y a tout à faire.
Et bien justement, et peut-être qu'il va arriver avec son CV, avec son expérience du très haut niveau. Je trouve que c'est une très très bonne idée de la part des deux.
Un petit mot, Lionel, rapidement, parce que je sais que ça te tient à cœur. Alors, on sait que Pélissier et Auxerre, c'est officiellement fini. Et donc, Zou a eu un message envers les supporters et il a voulu expliquer. Il demande de la compréhension et de la patience. Notre projet est désormais de se montrer plus ambitieux, de faire franchir un palier supplémentaire à l'AGIA. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de modifier le management de l'équipe professionnelle. On rappelle qu'a priori, ça devrait être style le prochain entraîneur de Auxerre. Tu comprends ce message? Non. Pour toi, il est hors sol.
Oui, complet. Je comprends pas parce que on a jugé Pélissier cette année alors qu'on a changé 75% de son effectif. La première année, ça s'était très très bien passé. L'année de la montée, il avait conservé 80% de son effectif. Là, on a fait du tout au tout. Au bout de 6 mois, il arrive à faire jouer ses joueurs. Les joueurs sont. Je connais très très bien Christophe. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma rééducation avec le staff médical et tout ça. Je vois l'ambiance, tout ce qui. C'est franchement, le vestiaire était très très bien tenu. Et là, tu veux passer un palier supplémentaire. Tu changes ton entraîneur et tu prends Will Steele. Prends un mec qui a fait ses preuves. Mais ne sors pas Christophe Pélissier. Alors j'ai bien entendu que. Mais il doit pas rentrer dans les petits papiers de certains. Il y a des choses qu'il doit pas aimer Christophe aussi et ça les embête.
Donc le propriétaire, en tout cas, exprime sa confiance envers Baptiste Malherbe, le président exécutif, et il n'est pas du tout mentionné, le directeur sportif David Ventier, dans le communiqué. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été à mes côtés. Merci à Flavien.
Salut à tous.
Salut à tous. Et à Daniel qui est aux manettes de l'émission. Dans quelques instants, les nuits du Casar enchaînées avec les deux zigotos, bien évidemment. Ça se passe sur RMC. Belle nuit à tous.
RMC, l'after foot.